Nos activités sportives et nos défis peuvent-ils être une forme de revanche à notre enfance? C'est un sujet abordé avec Greg. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les lundis, mercredis et samedis de course à pied, de sport et de mouvement, et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire, après du sport, j'ai perdu 27 kilos, je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous avais raconté tout ça dans la première et la deuxième saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts, ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, c'est le retour d'un invité que j'avais adoré, que vous aviez beaucoup apprécié vous aussi. Il faut dire que Greg partage sa passion pour le sport et le yoga avec un grand sourire et aussi beaucoup de photos Instagram, la tête en bas. Il y a bientôt 3 ans, je l'avais invité pour parler de la complémentarité entre yoga et course à pied. Je dois le dire, dans cet épisode, nous en avons un peu reparlé parce que je vais poser des questions aussi sur son évolution et comment, finalement, il voyait les choses depuis. Mais je l'ai surtout invité pour parler de son parcours et de la revanche que constitue, d'une certaine manière, le sport pour lui. En fait, on n'en avait pas du tout parlé dans le premier épisode et je l'ai découvert très récemment. Si vous allez sur son compte Instagram, vous verrez un athlète. Mais Greg a aussi partagé des photos et des réflexions sur son enfance. L'enfant timide, réservé, plutôt chétif, maltraité par ses camarades, qui n'était pas choisi dans les équipes de sport collectif car trop nul. Et ce poste m'a fait réagir car il montre comment il a réussi à se forger un corps et un mental d'athlète et donc comment finalement il a pris une sorte de revanche sur ce passé, sur cette enfance et sur ses camarades qui le maltraitaient. Nous avons enregistré quelques jours après son école de Paris en pleine préparation pour le Marathon des Sables, un gros défi qui ne sera pas le seul de l'année car Greg s'attaque aussi à des distances ultra plus importantes et a aussi pour objectif de boucler son premier Ironman en août prochain à Vichy. Nous avons parlé de son parcours, de la complémentarité entre la musculation, le yoga, la course, le trail, le triathlon, de ce corps d'athlète qu'il s'est construit au fil des ans, de la confiance aussi qu'il a accumulée et de comment ça se traduit aussi dans sa manière de communiquer sur Instagram, notamment par certaines photos. Nous avons aussi parlé de quelques anecdotes amusantes comme ces 2 crevaisons dans les derniers kilomètres du Mont Ventoux et aussi quelques considérations sur notre âge car nous sommes nés la même année et avons tous les deux l'impression que nous n'avons pas l'âge inscrit sur notre carte d'identité. Voilà, c'était une chouette discussion, un bon moment. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à l'écouter que moi je l'ai enregistré et discuté avec Greg. Allez, c'est parti.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut Greg.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Bah écoute, super, impeccable, comme à la sortie d'une course un peu exigeante, mais ça va.
Oh arrête, un peu exigeante pour toi, c'est de la gnognotte ça maintenant.
Non, alors en fait c'est vrai que c'était, ça introduit bien le truc, c'était ma 4e participation à l'Eco Trail de Paris, sur la version 80 km, et c'est quand même quelque chose que je prends... J'allais dire quand même avec humilité, parce que ça ne fait pas très humble ce que je dis juste avant, mais c'est quand même une course un peu exigeante, même si c'est hyper roulant, comme tout le monde le dit. C'est le cas, c'est hyper roulant, et d'ailleurs tout le monde part à fond la caisse, et tout le monde se plante à 30 km. Donc j'ai encore fait l'expérience sur cette version-là, de voir les gens qui soufflent comme des bœufs assez rapidement, et puis qui n'en peuvent plus, quoi. Donc voilà, donc je suis hyper content, ouais, parce que... C'est une 4e fois, ça fait partie un peu de mon plan d'entraînement, puis surtout c'est encore un truc sur moi, quoi, sur le fait que j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi une première fois, j'aurais jamais imaginé faire 4 fois, et je pense que je me réinscrirai encore.
Mais en fait, tu sais que tu as d'autres moyens de monter à la Tour Eiffel que de faire une course de 80 bornes avant.
C'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. En plus, surtout, j'y suis monté plusieurs fois à la Tour Eiffel. Donc c'est ça. Et là, mais enfin bon, le truc de monter à la Tour Eiffel, c'est vrai que c'est quand même assez génial. Tout le monde me dit à chaque fois, non, mais ça doit être horrible après avoir couru 80 km. Mais en fait, je pense que c'est le meilleur moment de la course, en fait.
Tu sais que moi, on m'a proposé un dossard pour les Cotterelles que j'ai refusé parce que je me sentais pas, tu vois, en mesure et tout de le faire. Puis j'avais prévu de faire le semi-marathon de Vichy. Et j'avais dit, mais moi, si j'y vais, c'est que pour le 80 parce que je ne vois pas l'intérêt de faire l'éco-trail s'il n'y a pas la montée à la Tour Eiffel. Et j'ai même eu quelqu'un en coaching, tu sais, qui était inscrit sur une distance autour de 40, il y a un 42 ou 46.
Un 45, ouais.
Et je lui ai dit, en coaching, je lui ai dit, mais je comprends que tu sois pas moyennement motivé, il n'y a pas la Tour Eiffel au bout. Mais c'est vrai que enfin, pour moi, la course, c'est pour la Tour Eiffel.
Non, c'est assez génial. Et en fait, en plus, selon l'heure où tu arrives, tu vois, alors les pros, ils arrivent très tôt. Je crois que le premier, il a mis 5h45. Alors, ils arrivent, ils ont le coucher de soleil. Ben, il fait encore jour, même à 5h45. Si tu arrives un peu tard, tu as le coucher de soleil, tu as des lumières absolument géniales. Et puis après, tu arrives la nuit. Donc, moi, je suis arrivé la nuit, bien évidemment. Mm. Et donc, tu as une autre vue, mais c'est génial cette montée. C'est vrai que le chrono s'arrête en haut, hein, s'arrête au premier étage. Donc, c'est vraiment. Tu peux considérer que la montée, c'est la course également. Premier étage, c'est pas très loin non plus. Et c'est vrai, quand tu es dans l'euphorie de ta course, tu l'as fini quand tu arrives au pied de la Tour Eiffel. Tu sais que ouais. Tu l'as terminé. Donc, forcément, tu montes à la Tour Eiffel, tu es hyper. J'allais dire, tu es en mode complètement euphorique, en fait. Et donc, ça se fait vraiment facilement, cette partie-là.
Bon, Johan Stuck, effectivement, l'a gagné en 5h42. Vous êtes parti à quelle heure le matin?
J'étais pas loin. On est parti à 11h30.
Ah ouais, mais attends, il a pris le goûter, lui, là-haut. Il faut lui servir une tarte à chantilly, à meringue ou je sais pas quoi. C'est sûr que le soleil...
c'est exactement ça. Bon, moi, j'ai une copine avec qui je pars. En même temps, elle a fait 8h30, je crois. 8h20 et quelques, quand même. Donc, je me dis... bon, il y a des pros, il y a des semi-pros, on va dire. Hein, qui ne sont pas des sportifs de haut niveau et qui le font dans des temps hallucinants. Puis, il y a des gens qui le font en plus long, mais... C'est une course qui est quand même un peu exigeante. Hein. Les barrières horaires, elles ne sont pas si simples que ça. Non, justement. Donc, on ne peut pas le faire en marchant tout le temps. Hein. C'est pas... Et c'est long. Hein. Donc, encore une fois, c'est une course qui fait marcher fortement le mental. Quoi. Mais bon, comme l'ultra en général, d'ailleurs.
Bah, tu sais quoi? Je vais faire un petit clin d'œil à Martinien sur son dossard. Qui, lui, il l'a fini. Alors, je ne sais pas quel temps il a mis, mais en fait, qu'il l'a terminé aussi. Mais alors, tout à la fin. Et je lui ai dit, mais que tu termines premier ou dernier, de toute façon, tu as fait les coterelles, tu as fait la même course, hein, c'est comme les marathoniens, ceux qui disent qu'on est bien marathonien quand on le fait en 5 heures ou 6 heures ou en je ne sais pas combien de temps. Bah si, ça fait la même distance, hein, ça reste la même distance.
Non, on est d'accord. Après, tout est une question effectivement d'exigence et de barrière horaire. C'est-à-dire qu'il y a des courses où tu as des barrières qui sont très courtes, d'autres qui sont plus larges. Bah, je pense qu'il faut adapter aussi son challenge par rapport à bon règlement des courses, bien évidemment, parce que si tu te mets en difficulté, c'est aussi difficile pour soi de se faire sortir aux barrières ou ce genre de choses. Maintenant, effectivement, je suis complètement raccord avec toi sur le fait que la distance, tu l'as faite. Les coterelles, que tu le fasses, que tu sois dernier ou que tu sois premier, bah voilà, j'ai envie de dire, ça change rien, en fait, sur le fait de l'avoir fait. Voilà. Moi, ça, le sport, je le vois comme ça aussi, il n'y a pas de... La difficulté. Bon, après, il y a des sportifs de haut niveau et il y a des sportifs tout court.
Et puis, tu sais, le dernier du semi-marathon de Vichy, alors que j'ai fait hier, hein, parce qu'on enregistre le 20 mars, il s'appelle Charlie Bancarel. Il a 93 ou 95 ans. Ouais. Il a fait en 3h et quelques. Et en fait, il a eu une grande acclamation. Mais comme j'ai vu que la dernière de je ne sais plus quelle course sur Internet, j'ai vu passer tout à l'heure aussi qu'il y a un semi-marathon et tout, qui était applaudi et tout. Il y en a qui passent même à la télé les derniers et tout, sur certaines courses, etc. Donc, des fois, c'est vrai qu'il y en a qui sont très critiques là-dessus, mais quand on regarde un petit peu aussi dans les conditions dans lesquelles l'ont fait les gens et tout, moi, je dis chapeau. Bon, mais pour toi, c'était une petite balade de santé parce que finalement, tu prépares beaucoup plus grand, quoi.
Ouais, alors c'est vrai que encore une fois, ça me fait toujours rire ça, parce que c'est vrai que si je mets ce genre de commentaire, je l'ai fait avec ma coéquipière Sophie là par rapport au marathon des Sables, qui mettait qu'elle faisait le marathon de Paris pour s'entraîner. Alors forcément les commentaires derrière, je voudrais bien faire le marathon de Paris pour m'entraîner. Ça nous a fait beaucoup rire. Mais on le dit vraiment de façon humble, il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Et moi je l'ai dit un peu la même chose sur mon compte. J'écrivais toujours que l'éco-trail, c'était un peu, ça fait partie aussi de mon plan d'entraînement pour le marathon des Sables, évidemment, puisque ça sera un format encore plus grand, en autosuffisance, à répétition de fatigue, etc. Mais c'est vrai que ça fait partie de mon entraînement, mais c'est aussi une course que j'aime, hein. Je la fais aussi parce que j'aime. Tu le sais, hein, je crois qu'on en a déjà parlé, je suis pas très, très plan d'entraînement, en fait. Moi, c'est vraiment un truc qui me saoule grave, grave, grave. Et surtout, ce qui me saoule grave dans le plan d'entraînement, c'est vraiment de les copier-coller d'un à l'autre et de vouloir toujours trouver le plan que l'autre il a fait et de faire la même chose. Mm. Meilleure façon de se planter et de se blesser, c'est bien ça. Mais bon, je comprends, hein, y a des gens qui ont besoin d'un cadre parce que ça fait avancer aussi le cadre et que des fois, on n'a pas la volonté pour le faire tout seul. Moi, j'ai cette volonté, donc j'en ai pas besoin, mais voilà, en tout cas, oui, donc pour revenir, l'éco-trail, c'est bien, ça fait bien partie d'une projection dans plus grand, effectivement, qui sera le marathon des Sables.
Je l'ai pas dit, mais bon, on peut te retrouver en long et en large dans un premier épisode qu'on a enregistré, j'ai regardé, en 2021. C'était l'épisode 104. Là, on va diffuser, quand je vais diffuser, on sera à peu près à l'épisode 200. Donc, t'imagines, il y a du temps qui est passé, 3 ans, etc. Ouais. Et à l'époque, en 2021, je sais pas si tu avais fait ton premier Ironman.
Non, je crois que je le faisais. En fait, quand on s'est, quand on a fait notre interview ensemble, je devais faire l'Ironman de Vichy.
Oui, c'est ça.
Au mois d'août. Ouais. Et je ne l'ai pas fait encore. C'était avant, je pense, c'était avant l'été qu'on s'est croisés.
Non, mais mieux, tu préparais un Alpha Ironman. Tu préparais l'Alf.
Ah, mais non, mais alors, je suis oui, ah bah oui, alors, je suis, c'était sur l'Alf, ouais, effectivement. Le full, ce sera pour cette année aussi. Alors, on n'en a pas parlé encore.
Ah, mais je ne savais pas. Moi, je crois que tu avais déjà fait les fulls, moi.
Non, moi, je n'ai pas fait de full encore. Mais non, alors, tu vois, tu m'as mis. Un peu trop.
Ah bah excuse, alors attends, on va clôturer le truc, tu reviendras quand t'auras fini, quand t'auras fait ton full. Non, parce que attends, monsieur, il a pas fait le marathon des sables, il a pas fait son full, etc. Moi, je l'invite en me disant, j'invite un athlète, un champion, un mec qui est baraqué, etc.
Athlète de pacotille.
Et en fait, il y a tromperie sur la marchandise, c'est pas possible. En plus, t'as changé de nom.
Hein, j'ai changé de nom, moi.
Bah, tu t'appelais pas comme ça avant, non? Greg Fit Trail à l'époque, tu t'appelais.
Ben, je m'appelle toujours Greg Fit Trail.
Ah oui, mais c'est dans ton nom. Ah oui, c'est toujours Greg Fit Trail. Donc, sur Instagram, t'es toujours Greg Fit Trail. Mais c'est que maintenant, en fait, c'est ton nom. Tu mets yoga, yogi, fit runner. Comment tu mets ça?
Ouais. Ultra runner.
Greg Yogi, tri runner.
Ouais, tri runner. Bah oui, parce que c'était pour, oui, il fallait que je retrouve un petit bout de tout, en fait. Tu sais, moi, j'aime bien tout, en fait. J'aime bien tout mélanger. Et j'aime bien sortir un peu du truc, justement, souvent, les triathlètes, ils sont triathlètes. Les ultra runners, ils sont ultra runners. Et les runners, ils sont runners. Et puis voilà. Puis ceux qui font de la muscu, ils font de la muscu.
Bon, et à l'époque, je t'avais demandé un conseil sur le handstand. J'ai toujours pas trahi mon handstand. Je te garantis que j'en ai pas fait un seul depuis que tu m'as donné des conseils. Mais la question que j'ai à te poser, quand même, c'est, t'as hâte de faire ton handstand au milieu du désert?
Ouais. Ah bah, ce que j'ai hâte, c'est de faire des séances de yoga au milieu du désert. Ça, je l'ai déjà annoncé, je l'aurais déjà dit aux organisateurs. Non, oui, j'ai hyper envie de. D'ailleurs, mes deux coéquipières avec qui je pars, elles rêvent que de ça. Elles me disent, on attend les séances, etc. Bon, alors, le but, ça va pas être de pas se blesser dans le sable. Mais ouais, ça va être l'endroit idéal pour méditer, pour faire plein de trucs. On va être complètement déconnecté, plus de réseau, plus rien, plus de notifications, plus d'internet. Je pense que ça va être. Pendant au moins 6 jours, puisque la course dure vraiment 6 jours, ça va être une vraie expérience, je crois, presque méditative. Ouais. Pour le coup, quand je parle de course méditative, là, on est dedans. Hein.
Ouais, bah nous, dis donc, tu vas nous manquer, hein, parce qu'avec toutes tes posts et tout, là, tu vas nous.
Ah oui, ça va faire un break sur Instagram. Bon, en même temps, voilà, ça fera peut-être. Il y en a qui seront contents, peut-être, je sais pas.
tu vas casser Instagram, en fait. Tu vas dire, ah, il n'y a plus personne qui poste, etc.
Ouais, faut pas exagérer non plus. Hein. J'ai pas 300 000.
Bon, alors. En quelques mots quand même, il faut te représenter parce que finalement ça fait déjà 10 minutes qu'on a commencé à papoter, moi je te connais, on échange, etc. et tout, j'ai l'impression de te voir tous les jours, mais en fait je te vois toujours sur Instagram. Je ne sais même plus quel sport tu fais réellement, comme tu l'as dit, c'est précis. Alors tu vas nous dire quel sport tu fais vraiment et qu'est-ce que tu fais vraiment, c'est quoi ton domaine d'activité?
Alors, donc, bon, déjà, j'ai plusieurs boulots. Donc, en dehors de ça, je suis déjà manager. Hein, je bosse, j'ai un autre poste.
Ça arrive, t'inquiète pas.
Voilà, ça arrive. Et par rapport au sport, bah, c'est une longue histoire, hein, le sport avec moi, comme je l'avais déjà dit. Je n'étais pas très sportif avant, mais j'ai un peu touché à plein de sports quand j'étais plus jeune. Et puis aujourd'hui, bah, ce qui ressort le plus, ça a été la course à pied, parce que la course à pied, c'est ce qui est déjà, quand j'étais ado, ressortait. J'adorais le cross à l'école. En fait, j'adorais un peu les sports individuels. Parce que dans les sports collectifs, ça se passait moyennement bien, on va dire.
On va en reparler de ça,
Donc, la course à pied a pris le dessus. Et puis, les choses se sont faites un peu naturellement. J'ai fait des distances un peu tout seul. J'aimais bien courir tout seul. J'aimais pas les courses. J'aimais pas les trucs marathon et trucs avec plein de monde. Moi, j'étais un peu le solitaire dans mes courses. Et puis, je me suis fait faire des petites distances, puis à allonger. Puis, d'un seul coup, à me dire, tiens, si je faisais 20, si je faisais 30, si je faisais 40 tout seul, en fait. Ce que j'ai fait. Et puis, un jour, quand même, en suivant un plan d'entraînement, je me suis blessé. Et donc, je suis allé faire ma natation parce que je pouvais plus courir. Et puis, en reprenant la natation que j'avais fait quand j'étais plus jeune, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est intéressant la natation. Une copine m'a dit, vous savez ce que c'est un Ironman? Paf, elle mis ça dans la tête. Et là, je m'étais voir et je me suis dit, tiens, si je faisais du triathlon. Ouais. Et donc, je me suis mis à faire du triathlon. J'ai commencé par l'Olympique et puis du Half Ironman. Ce que j'ai fait globalement, c'est que ça dans le triathlon. Donc, vélo, natation, course à pied, la muscu que j'ai toujours fait, du renforcement musculaire global, et puis tous mes étirements de course à pied que je faisais avec des postures de yoga, sans vraiment m'en rendre compte. Puis un jour, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire une formation de prof parce que j'ai envie d'expertiser le truc et d'aller plus loin dans le voyage que je fais avec le yoga. Sans savoir que j'allais l'enseigner, c'était plutôt pour me faire une expérience. Donc, le yoga également. Et puis un petit mélange yoga, danse, etc. J'ai fait du hip-hop pendant un certain temps. J'ai
Non,
un
je
peu
savais pas,
arrêté.
tu m'avais pas dit que tu faisais du hip-hop.
Non, parce que. Mais j'ai arrêté. Mais c'est un peu dans ma gestion du corps et du yoga, justement. Aujourd'hui, je fais du vinyasa. C'est un yoga qui est plutôt enchaîné, plutôt chorégraphié. Et ça reste dans ce que j'aime, en fait, dans le mouvement du corps et dans la mobilité. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, c'est un peu tout ce global de choses. Ça fait déjà pas mal d'activités.
Bon alors, il y a parce qu'il y a 3 ans, on avait parlé justement du yoga, de l'intérêt du yoga, etc. On va pas
Ouais.
en reparler parce que j'ai fait quand même 2, 3 épisodes sur le sujet du yoga. Tu vas pas dire le contraire, hein, c'est toujours aussi bien le yoga.
Bah, clairement. Et j'en suis même encore plus convaincu. Et c'est marrant parce que j'ai plein de gens autour de moi comme exemple de ce que ça a pu leur apporter sur la course à pied et surtout sur le triathlon. Mais j'ai l'exemple sur moi, hein. Moi, je vois bien ce que ça m'apporte avec le recul par rapport à notre émission de l'époque. Aujourd'hui, c'est encore décuplé. Je veux dire, sur le 80, encore ce week-end, j'ai jamais vécu un 80 aussi sereinement, j'allais dire mentalement, et au niveau de ma respiration et de ma gestion, hein, du corps. Globalement, cette course, je l'ai sentie, mais ça a été la plus simple des quatre, des trois autres avant, franchement. Et le yoga, il est vraiment pour quelque chose.
Et tu sais pourtant que le yoga, si t'as lu, t'as pas lu Born to Run?
Non, j'ai pas lu.
Bah en fait, ils en disent du mal dans hein, du yoga. Il y a un mec qui en dit du mal qui dit que tous les gens qui font du yoga, ils se blessent quand ils courent, les coureurs. Et non, mais c'est vrai. Et j'étais super surpris parce que en fait, avec les discussions, et puis tu sais, il y a même des formations, les yogi runners, enfin, il y a tout ça
Ouais.
et tout. Et qu'est-ce que t'en penses de ça, toi?
Alors en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que bon, alors, y a deux mondes hein, entre les deux. Mais effectivement, alors c'est vrai et c'est faux. Tu peux te blesser en faisant du yoga. Il a raison en le disant. Et c'est pour ça qu'il y a des formations aussi yogi runner. Si tu fais, par exemple, il y a plusieurs variétés de yoga. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand tu prends le yoga que je fais moi, qui est assez dynamique, qui peut ressembler presque, si je voulais schématiser, à du pilates, donc à quelque chose d'assez renforcement des muscles intérieurs, ça va plutôt être bon pour le running. Ça va plutôt te raffermir un peu l'ensemble et te donner des capacités musculaires. Et ça va en même temps assouplir un peu ton corps et faire que, au lieu d'être tout raide avec la course à pied, tu vas devenir un peu plus souple. Par contre, si tu fais du yoga comme du yin yoga, les yogas où on est sur le sol, on fait que des étirements, on allonge les muscles, on tire à fond, ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas être beaucoup moins bon sur ton running juste après ces séances-là parce que tu vas supprimer ton rebond musculaire. C'est-à-dire que tu vas allonger tellement les muscles qu'ils vont devenir très laxes. Et en rendant tes muscles trop laxes, bah, tu t'épargnes pas la blessure, en fait. Tu peux voire même être moins performant sur la course à pied. Et avoir une impression. Si tu as des chevilles qui sont hyper laxes, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te fouler les chevilles. Tu vas avoir les chevilles qui bougent dans tous les sens. Donc, en fait, il faut trouver, c'est ce que je dis à chaque fois, il faut trouver vraiment le juste équilibre entre le renforcement musculaire, le yoga et la course à pied. J'avais une amie yogi qui me disait, qui faisait beaucoup de yin, et elle disait, les filles, parce qu'il y avait beaucoup de nanas dans le cours, elle disait, les filles, il faut aller à la salle de muscu. Je sais que vous détestez ça, mais il faut, en même temps que vous vous étirez en permanence, vous faites le grand écart et tout ça, là, vous allez faire de la muscu, vous allez vous muscler, parce que sinon vos muscles, ils sont tout longs, ils servent plus à rien, en fait. C'est des élastiques qui marchent que dans un sens, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui te disent que le yoga, c'est pas forcément bon. Si tu en fais à haute dose, ça va plutôt te réduire ta performance musculaire. Par contre, si tu trouves le bon portage, ça va plutôt être dans le bon sens. Et en plus, ça va te permettre de renforcer ton mental et puis de renforcer ta respiration. Parce que alors ça, par contre, la capacité respiratoire, tu l'augmentes avec le yoga, clairement.
Alors, explique pourquoi, parce que comme ça, les gens, ils le sauront.
Parce qu'en fait, dans le yoga, tu as plein d'exercices de respiration qui ont des noms divers et variés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va faire percher à mort. Mais.
Non, alors attends, parce que je viens de retrouver dans les notes de l'épisode l'étirement que tu nous avais sorti la dernière fois il y a 3 ans, que je ne suis incapable de reprononcer, mais c'est Salamba, c'est Zanana, Padagurada, tu vois.
D'accord, ouais, c'est des mots en sanskrit.
Bref, tu nous avais sorti ce truc-là et tout, donc tu veux bien nous en sortir un peu compliqué quand même.
Bah, en fait, tu sais, rien que déjà, non, je ne vais pas vous en sortir d'autres. Hein. Rien que le fait de respirer, de prendre du temps dans une séance un peu méditation pour des respirations, par exemple, que tu trouves sur Internet, respirer tant de secondes sur l'inspiration, monter le plus haut possible, se mettre en rétention, c'est-à-dire arrêter de respirer pendant 10 secondes et re-expirer, redescendre, rester en une sorte d'apnée pendant 5 secondes au début ou 10 secondes, remonter. Tu vas calmer ton rythme cardio-respiratoire, et puis surtout, tu vas habituer tes poumons à aller chercher plus d'air, à se gonfler plus. Et à force, avec le yoga, pour aller dans certaines postures qui sont exigeantes, tu es obligé de respirer énormément, d'aller chercher loin. Donc, ta capacité thoracique, ta capacité pulmonaire, tu l'augmentes parce que tu ouvres un peu la cage thoracique. Donc, tu vas faire un phénomène, il va y avoir un phénomène mécanique sur ton corps, mais il y a un phénomène aussi, je ne vais pas dire mental, mais de plus de conscience respiratoire. Et
D'accord.
c'est le vrai truc que je dis toujours aux yogis. En général, la respiration, tu sais, c'est un réflexe. Heureusement que c'est un réflexe, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient morts entre nous, qui
Moi,
auraient
j'oublie tout le
oublié de
temps.
respirer. Voilà, mais d'ailleurs, ça, je leur dis en riant tout le temps, mais en début de cours en yoga, je leur dis toujours, prenez conscience de cette respiration, on va l'observer, c'est-à-dire on va essayer d'imaginer ce qui se passe quand vous inspirez, quand vous expirez, ce qu'on fait en méditation, hein, c'est pour concentrer son esprit et arrêter de penser à plein de trucs. Mais en général, ça te permet de te rendre compte de ce que c'est que vraiment la respiration. Sinon, toute la journée, là, on parle, on respire, tu vois, mais on essaie de gérer notre
On
respiration.
essaye.
Voilà, des fois, on souffle un peu trop fort et quand on court, on fait la même chose.
Ah ben c'est
On
tout à fait,
essaye.
c'est l'enfer même d'ailleurs. Tu vois, mon semi-marathon d'hier, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je respirais plus du tout. Tu vois, enfin,
Et
je
ben
pouvais plus
voilà.
respirer.
Mais les gens en yoga, pareil. En yoga, ils se mettent dans des postures. Plus c'est difficile, plus ils sont en apnée.
Ouais.
Parce que tu peux faire l'exercice n'importe quand. Tu fais de la muscu, tu fais une traction, un truc qui est dur. Au lieu de respirer, tu vas faire. Tu bouges plus et tu tires sur tes bras et tu respires plus, tu vois.
Ouais.
Là, le corps, c'est le moment où il a besoin d'oxygène. Donc voilà. Donc ça, le yoga sur la partie respiratoire, elle t'apporte beaucoup. Après, moi, je pense que plus tu étires sans, je parle pas d'assouplir, je parle juste de flexibilité, d'essayer de récupérer de la mobilité, comme je dis toujours. On va pas dire, je vais pas dire ça parce que je vais déclencher la haine de tout le monde et d'Instagram. Si je disais d'assouplir, ça empêche les blessures, c'est faux. Je pense que d'avoir un corps, en tout cas plus mobile et plus souple, ça te protégera d'un certain nombre de blessures. Oui.
Ouais.
Maintenant, c'est pas une parade à faire des conneries, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que c'est facile, hein, tu peux très bien dire, ah ben moi je fais du yoga, je fais des étirements, donc je peux faire n'importe quoi, et tu vas te blesser de la même façon que tout le monde, hein. Si tu charges trop, tu vas te blesser. Si tu mets les mauvaises chaussures, tu vas te blesser. Si tu as des problèmes de genoux et que tu fais pas attention, tu vas te blesser. Tu vois, souvent le problème, c'est que on veut trop mettre le bien et le mauvais l'un en face de l'autre, puis on dit, ah non, ça c'est bien, non, ça c'est mauvais, on met des cases. Et c'est pas le yoga, c'est pas un miracle non plus, c'est un outil parmi tant d'autres qui peuvent, je pense, augmenter les performances des sportifs. Mais c'est pas un outil miracle, et c'est pas en faisant du yoga qu'on devient un athlète de haut niveau. C'est pas en faisant du yoga qu'on va ne plus se blesser du tout. On peut même se blesser en faisant du yoga. Hein. Tu peux bien
Mais
casser une côte alors.
tu t'es cassé une côte?
Justement, c'est l'anecdote. En faisant du yoga, au
Ouais.
début, comme ça va casser un peu le mythe du yoga. Tiens,
Ouais,
bam, hop.
allez.
Ouais, dans ma formation de prof, ouais, je me suis cassé une côte. Ouais, je me suis fêlé une côte
T'as fait comment?
en faisant une torsion. Bah, je te montrerai pas, c'est un podcast, il n'y a pas de vidéo, mais en faisant une torsion, c'est-à-dire en mettant mes bras de l'autre côté, en prenant mes deux bras, les mains l'une contre l'autre, tu mets le coude droit contre la cuisse gauche, tu pars sur le côté, je devais être fatigué, un peu trop fort, j'étais un peu loin et ça a fait clac.
Ah ouais, mais quand même.
Ah mais oui, voilà, donc comme quoi, tu vois, on peut se faire des trucs bizarres. Bon, après, c'est peut-être mon corps qui est comme ça, j'en sais rien,
Ouais,
mais...
c'est bizarre. Mais tu sais, pour revenir sur le yoga, quand même, il y a deux trucs que je vois. D'une part, j'ai fait un épisode l'autre jour, j'ai enregistré, alors qui sera diffusé au moment, mais qui n'est pas diffusé quand on enregistre, mais qui sera bientôt diffusé sur Kilomètre 150, et qui le sera quand cet épisode-là sortira. Avec une kiné, tu sais, qui est aussi coach, qui fait du travail, qui est compagnie. Et on parlait de la mobilité, de l'importance de la mobilité. Et aussi de la souplesse de certains éléments, par exemple des bras, tu vois, pour soulager certaines positions, d'être capable de se coucher sur le vélo, toi qui fais du triathlon pour pouvoir se mettre sur les prolongateurs, respirer, c'est pas si simple que ça. On parlait aussi de mobilité de hanche, tu sais, sur le pédalage, que si t'as pas la bonne mobilité, Il y a un moment, tu finis par te décaler, que c'est ce qui te crée des blessures, toi. Tout un tas de trucs comme ça. Et elle me disait qu'en tant que kiné, elle travaillait beaucoup sur la mobilité. Elle demandait beaucoup, tu vois, qui est d'améliorer la mobilité des gens qu'elle traite, à la fois en kiné, mais aussi quand elle les a en coaching. Donc, là-dessus, le yoga, il n'y a pas de... Tu vois, je me dis, bon, ça peut que servir. Et puis, il y a aussi un autre truc, un conseil qu'on m'avait donné. Parce qu'on me l'a donné plusieurs fois, en trail, on me disait souvent... respire, fais de la respiration ventrale pour protéger tes lombaires quand les kilométrages augmentent. Et le yoga, justement, permet de prendre cette conscience-là, de cette respiration. Parce que moi, mon diaphragme, il fonctionne mal. Alors, tu sais, moi, mon diaphragme, il reste là-haut, là, au lieu de descendre. Ouais. J'ai vu, je ne sais pas combien d'ostéos, ils m'ont dit, voilà, ce diaphragme, il va falloir faire travailler, etc. C'est pour ça que je m'étais intéressé au yoga, tu vois, pour commencer à me mettre au yoga. Et j'ai fait mes séries d'épisodes sur le yoga. Et justement, et l'autre jour, j'y pensais, c'est sur les trails, en me disant, attends, respire bien en ventrale, protège ça, etc. Et c'est vrai que pour moi, je vois de la complémentarité, tu vois.
Tu peux essayer, il y a plein d'exercices en respirant des fois. C'est hyper difficile, tu vois, on respire par la bouche forcément en courant parce qu'on a besoin de beaucoup d'air. Si tu cours pas trop vite, que tu es en endurance fondamentale ou que tu fais quelque chose ou à même un rythme assez faible, tu peux essayer justement d'inspirer par le nez comme on le fait dans le yoga, voire même de respirer que par le nez, ce qui est hyper difficile en courant puisque ça demande d'approfondir à fond, et comme en fait on respire très superficiellement quand on court, on fait vraiment pas une suffocation, mais on remplit la bouche, on sort, tu vois, on va très vite par la gorge, par le nez c'est plus long le parcours, et donc par contre par le nez ça calme à mort l'organisme, donc ça fait redescendre le rythme cardiaque. Et si tu le fais en courant, tu peux même essayer d'inspirer par le nez, expirer par la bouche, de faire un espèce de circuit, et ça donne des sensations assez impressionnantes dans la colonne d'air, c'est-à-dire que ça change vraiment la perception. Et c'est vrai que de se concentrer sur ça, d'oublier un peu le reste, ça, déjà en fait ça va te faire oublier tout le reste en plus, parce que tu es obligé de te concentrer, donc ce que tu as en tête d'autre chose, ça part quoi. Donc voilà, donc ouais, c'est hyper complémentaire, et sur ce point-là, je pense que c'est un des gros points du yoga, hein, de ce que peut apporter le yoga à la course à pied.
Il y a un autre truc qu'on a oublié par rapport à 2021, c'est ton petit 100 km là, t'en as pas parlé.
Le petit 100 km.
T'as bien fait un 100 km l'an dernier ?
Ah oui, alors oui, alors 2021, mais oui, alors j'étais sur deux, ouais, mais oui, alors 2022, j'étais déjà sur, j'étais sur cette année. Oui, j'ai fait le 100 km de Millau.
Bah ouais, tu m'en as pas, parce que tu vois, entre 2021, t'en as fait des trucs, entre les, t'as fait quoi ? T'as fait 3
ah oui,
alors, le 100 km
en... Ouais, en 2022, l'année dernière, j'ai fait le 80 km de l'éco-trail.
Ouais.
J'ai fait le marathon de Paris 15 jours après.
Ouais.
Bah, c'est l'entraînement. Je m'étais dit, allez, on enchaîne. Il y a eu la cyclo-sportive du Mont Ventoux.
Les ah oui, 100 c'est
kilomètres
vrai.
À vélo, là. Ouais. Ça, c'était une première pour moi. J'avais jamais fait de course vélo pure, en fait. Ouais. Sans traitement, juste vélo. Bon, j'ai crevé deux fois quand même. C'est quand même été.
Ah.
Mentalement, pour le coup, c'est là que je me suis dit, encore une fois, tiens, là, je me suis dit, là, Greg, c'est cool, t'as un bon mental quand même. Parce que la première fois, quand mon pneu il a explosé, j'étais quand même dans mon réel sur Instagram où on entend le truc qui fait pchit, je fais ah merde. Et je crie un grand coup. D'ailleurs, ça a fait le tour de tous mes followers parce que tout le monde a commenté ce truc en riant tellement je le disais d'une façon, mais alors, j'étais perdu, tu vois. Donc, je répare une première fois, je repars, je sais pas, allez, 20 minutes après, paf, ça répète une deuxième fois. Et c'était pendant la montée du Ventoux, j'avais en fait plus. Tout l'école, on était sur la fin quand même, et les 20 dernières bornes qui sont les pires, bien sûr. Dans le bois, en pleine chaleur, horrible au mois de juin, enfin en passant. Je suis arrivé bien après tous mes collègues et tous mes copains, évidemment, le dernier, mais bon, j'ai quand même réussi à l'avoir, cette putain de médaille.
Ouais.
Donc, je suis quand même assez fier de moi, pour le coup, parce que je pense que beaucoup auraient dit, bon, allez, c'est bon, allez, c'est tombé, je rentre.
Mais t'as quoi sur ton vélo ? T'avais des chambres ? T'avais quoi ?
Ouais, j'avais des chambres à ce moment-là. Maintenant, j'ai du tubeless, mais j'avais des chambres sur mon RC, mon Triban 520, hein, mon Décathlon. Hein,
bah oui, attends.
Qui pèse 11 kilos.
Et c'est avec ça que je roule, moi, hein, tu sais.
Et j'ai fait des Ironman, j'ai fait des Alphes avec lui, sans problème. Hein, j'ai fait le Triathlon de Paris, j'ai fait plein de trucs avec. J'en suis super fier. Et j'ai fait le Ventoux avec un vélo de ce poids-là. Je veux dire, les mecs qui passent à côté de moi, ils avaient des vélos qui faisaient 6 kilos.
Ouais, mais voilà, ils se la pètent, voilà. Les mecs. Attends, bah oui, ils ont des vélos à 6000 balles, ils font 6 kilos, quoi.
Tu vois, ouais, c'est bon, quoi. Ils crèvent une fois, ils arrêtent.
Mais attends, donc, t'avais quoi? T'avais pris deux chambres ou t'as changé les chambres?
J'avais deux chambres. Et c'est marrant, j'en avais remis une avant de partir.
Ouais.
Il y a un copain qui m'avait dit, oh, une fois, j'ai crevé deux fois. Et j'ai dit, bête, je vais prendre une deuxième chambre. Bah, putain, j'ai bien fait de mettre la deuxième chambre. Donc, il y a eu ça. Et puis après, en fait, le Ventoux, je faisais le Half Ironman de Andorre. Et là, par contre, c'était vraiment dur. Parce que Andorre, il y avait 3600 ou 3800, 3600 mètres de dénivelé à vélo sur 90 km. C'était vraiment fort. Et la natation, c'est dans un lac de montagne à 2000 mètres. Donc, j'ai eu vraiment un problème respiratoire. L'altitude, le froid du lac, ça a fait beaucoup de paramètres. C'était pas en mer. Moi, j'essaie de pas trop faire en mer. Je suis pas très fan de la natation en eau libre en mer. J'ai un peu plus de mal. Pour l'instant, j'ai plutôt choisi des Ironman dans des lacs, étangs.
Ouais, Vichy, il n'y a plus d'eau maintenant.
Ouais, alors voilà, c'est ça où alors elle est, où elle a un problème. Donc voilà, il y a eu l'Alpha Ironman d'Andorre, et puis après, re l'Alpha Ironman de Vichy, et le 100 km de Millau pour terminer.
Bah dis donc, c'est crâné quand même.
Ouais, j'étais assez content de cette année. Le 100 km de Millau, c'est une vraie expérience. Vraiment, ça m'a bien plu. 100 km sur route, hein, c'est sur bitume, c'est un peu dur. Par contre, c'est vraiment le style marathon de Paris, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ravitaillement, il y en a tout le temps. C'est une version vraiment marathon, mais longue distance.
Ouais.
C'est une expérience. Ouais.
Tu l'as fait tout seul ou t'as quelqu'un qui t'accompagnait?
Non, je l'ai fait tout seul, j'avais personne à vélo, donc j'ai pris mon sac d'hydratation. Et puis comme tu repasses par le centre de la ville, tu fais une course, tu fais le marathon et après tu repars pour les 70 autres. Et donc tu peux changer de sac, tu peux changer d'affaires. Je me suis changé moi à l'intermédiaire, j'ai changé de short. Je pense que, bon, très très bonne idée. J'ai eu des méga ampoules avec mon short après, mais enfin bon, c'est pas grave. Passons. Ça c'est un autre débat. Donc voilà, non, c'était une belle année 2022.
Ouais, tu vois, si maintenant je pourrais presque t'accompagner en vélo, mais bon. Écoute.
Quand tu veux.
Avec mon Triban subcompact, 520 subcompact, tu sais, maintenant je passe partout. Mais bon, il faut que je remette une chambre parce que j'ai crevé l'autre jour, j'ai voulu mettre des rustines, et mes rustines, elles tiennent jamais.
Ah ben voilà. Ben moi j'ai crevé à Paris il y a 15 jours, alors
Oh, mais c'est normal, Paris,
sans
attends.
arrêt.
C'est Paris, enfin voilà. Écoute, et pour ceux qui s'intéressent au 100 km de Millau, j'avais fait un épisode avec Fred Bellouze, on avait parlé de son expérience du 100 km de Millau, comment lui, l'entraîneur chevronné, a couru cette course-là, comment il l'a vécu, etc. C'était très intéressant, c'était un vrai témoignage qui montrait aussi les difficultés de cette belle course. Et j'ai une petite pensée, tiens, pour Thomas, qui l'a mise à son programme cette année, Tom Runner 63. Je ne sais pas si tu connais, si tu le suis, mais
Ouais,
c'est
mais
son
j'ai
programme.
échangé aussi avec d'autres personnes qui m'ont. Une autre personne qui m'a justement envoyé un message il n'y a pas très longtemps en me disant: Ah, oh, je vais m'inscrire cette année, tu m'as donné envie de faire, etc. Je trouvais ça assez génial parce que j'ai souvent des témoignages comme ça, des personnes qui me contactent pour des conseils sur certaines courses que j'ai faites ou qui me disent: Ah, ça m'a vachement inspiré, j'ai envie de le faire, je vais faire ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et je trouve ça assez. D'ailleurs, je trouve ça assez touchant. Ça boucle avec notre sujet, tu vois, avec le côté. J'étais pas grand chose au niveau sport il y a quelques années et aujourd'hui on me pose des questions, on me demande des conseils. Ça m'arrive souvent à la muscu aussi quand on vient de me demander des conseils sur mes étirements ou sur mes équilibres, etc. Et on me dit: Ah, mais je voudrais bien faire ça, comment tu fais, etc. Est-ce que tu peux me donner des tips et tout ça? C'est hyper valorisant, en même temps c'est hyper touchant, je trouve. C'est assez.
Mais il faut le dire, parce qu'on va en venir, si je t'ai invité, c'est si je t'ai réinvité, c'était pas que pour papoter de ça, c'était aussi parce que tu as fait un post sur l'enfant introverti devenu et timide, tu dis, à l'amateur athlète. Et en fait, dedans, tu as des photos où on te voit tout au long de ta vie, et enfin, tu en as une, enfin, franchement, c'est vrai que tu es un athlète, niveau musculation et tout, tu es carré, mais
Merci.
t'étais pas comme ça du tout, quoi. Je veux dire qu'il y a un changement. Qui est incroyable.
Alors, c'est vrai, ouais. Ouais, et puis encore, j'ai pas mis toutes les photos. En fait, pour la petite anecdote, c'est marrant, c'est ma mère qui m'a envoyé toutes ces photos. Elle m'a plein, et j'en avais plein, donc forcément, j'ai fait un tri. Ah, il y en a qui étaient terribles. Sur un poste, tu peux en mettre 10. Donc, j'ai fait une petite sélection. En même temps, le but, c'était pas non plus d'en mettre 200. Mais ouais, je sais pas comment dire ça. J'ai toujours été, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai été dans une famille où le sport, c'était pas un truc forcément qu'on faisait à fond. Par contre, on avait de l'activité, parents agriculteurs, à la campagne, on faisait beaucoup de vélo, on marchait beaucoup. Voilà, c'était la mode des terrains de tennis dans les communes. Les terrains de tennis, c'est la mode Noah et tout ça, je pense. Bah, la mode Lecomte et autres, tu sais, c'était ma génération. Et donc, on
T'es
se
si vieux
retrouvait
que
des
ça?
Non, je suis pas vieux. Moi, j'ai pas vieux. Le gars qui. Je vais avoir 47.
On a presque le même âge. Ah bah ouais, attends,
76.
76, moi aussi. Oh, punaise. Oh là là, t'es de la classe. On est dans la même. On est, comment on appelle ça, voilà. Des conscrits. On est des conscrits. Et oui, c'est vrai. Mais il faut rappeler que Yannick Noah, il a gagné en 83. C'était.
Bah, ça doit être dans ces eaux-là. Alors, moi, j'étais tout petit, mais bah, toi aussi, d'ailleurs. Mais c'est vrai que des terrains de tennis, il y en avait partout. Ouais. Je me rappelle, j'étais vraiment gamin. J'avais moins de 10 ans. Ils en installaient dans toutes les communes. Donc. Mon frère était un super joueur de tennis, donc tout le monde jouait au tennis dans la famille, ma mère adorait le tennis, etc. Donc on avait pas mal d'activités, tu vois, le tennis, on jouait, mais c'était beaucoup de trucs individuels quand même au final. Sport individuel, très peu de sport collectif. Bon, moi j'ai jamais été bon, je vais faire un stéréotype total, j'ai jamais été bon en foot, tous ces trucs-là, je suis nul en fait. Au basket, je suis nul. Il y a que le volley à la limite où j'aimais bien cette sensation de jeu, mais les sports co, j'étais pas bon. Et puis surtout, j'étais un gosse introverti, plutôt un peu frêle, tu vois, justement pour le coup, un petit peu rond même quand j'étais après, avant d'être ado, j'avais un peu de surpoids. Ce qui fait que bah j'étais pas le gosse très intéressant, en tout cas pour les caïds. Voilà. Quand j'ai fait toutes mes écoles primaires dans des petits villages, donc plutôt hyper protégés, 20 par classe. On passe d'un village à l'autre, on fait tous les niveaux, donc tu vois jamais la ville. Et d'un seul coup, paf, j'arrive en sixième au collège dans un truc de 800 personnes, quoi. Ouais. Et là, c'est le drame, tu vois. Tu te retrouves avec tous les caïds, les nanas, etc. Tout. En fait, pas assez mature par rapport à un environnement hyper mature. Tu vois. Ou en tout cas, des gamins qui n'ont pas évolué du tout de la même façon que moi, dans des cadrages beaucoup moins différents du mien.
Ouais. Non, puis il faut le dire aussi, c'est que j'ai discuté avec un proviseur de... Tu sais, à une époque, j'intervenais dans les collèges. Et un proviseur de collège m'a dit, il n'y a rien de pire que le collège. Il m'a dit, un gamin de sixième qui arrive, il est tout chétif. On dirait un gamin qui peut être en CM2, il a son gros cartable. Et il se retrouve face à des nanas qui, déjà, elles ont 50 plus, certaines. Déjà, même celles qui n'ont pas 50 plus, elles paraissent déjà beaucoup plus féminines et tout. Et il y a les garçons qui sont, il y en a certains qui sont très grands. Et dans les 5 ans, en plus, t'as les moments de poussée, etc. On avait parlé dans un épisode où tu peux prendre. Moi, je prenais 13 cm par an quand j'étais dans ces âges-là. Donc, effectivement, j'imagine bien le gamin, tu peux très vite te retrouver avec des gens beaucoup plus grands, avec des caïds, des costauds, un environnement où d'un coup, et puis t'es pas protégé. Et il m'a dit, ce professeur de collège, m'a dit, mais c'est juste l'enfer à gérer un collège. C'est le pire. On a des tout petits gamins qui ont l'air tout petits, on en a des grands qui sont très grands, ils ont deux têtes d'écart et tout, ils en ont qui ont des grosses voix, il y en a qui ont des tout petits voix comme ça et tout. C'est l'enfer. Donc je comprends ton problème en fait.
Donc moi j'étais hyper pas mature forcément, puis j'étais pas prêt en fait, mes parents m'avaient pas préparé à ça, pas de colonie de vacances, j'étais jamais parti avec d'autres personnes, donc j'étais un peu trop dans les jupons de ma mère, si on peut dire ça comme ça, dans la famille j'étais protégé par mes parents en fait, et par un cadre campagnard, rassurant, etc., qui était le mien, hein. Et puis peut-être un peu introverti, où j'étais avec mes potes du coin, on faisait nos cabanes dans les bois, tu vois, c'était un peu... c'était un peu ça, tu vois. Et donc là, j'arrive dans un monde horrible. Et donc, les premières séances de sport, c'est ce que j'ai dans mon poste, hein. Première séance de sport, et alors là, toute la pédagogie nécessaire, tu vois. Bon, après, c'était pas de la faute. Je ne balance pas la balle au prof. C'était fait comme ça à l'époque, point barre. Mais c'est vrai que on choisit deux mecs. Déjà, on sépare les filles des garçons. Alors, à l'époque, c'était bien genré, hein. Alors, les mecs, vous allez faire du foot. Vous allez faire du foot en salle, du basket et je sais plus quoi. Les filles, vous allez faire de la danse, je sais plus quoi d'autre. Et on se retrouvera pour le running. Ah, je fais, ah chouette, il y a quand même le running dans le truc, tu vois. Et déjà, à l'époque, je me disais, moi, ce que je vais préférer, je pense que c'est la course à pied. Et voilà. Et là, donc, les mecs, on part tous ensemble. Donc, on sépare les filles des garçons. Voilà, OK, passons. Et puis après, on choisit deux mecs. Sont souvent les deux plus forts caïds ou les deux plus grandes gueules de la classe. Puis c'est eux qui font les deux équipes.
Bah ouais.
Et forcément, qui est-ce qui reste à la fin? Moi et un autre. Il y a toujours deux qui restent, les deux derniers. Et moi, j'étais toujours celui que personne ne voulait. C'était l'enfer. J'en ai vraiment... Ça a été un sujet... Et c'est des trucs dont tu ne parles pas spécialement, tu vois, avec tes parents. En tout cas, à l'époque... C'était pas très... Voilà. Et je pense que c'est assez destructeur par rapport au sport, parce que ça m'a fait bien détester le sport pendant des années. C'est-à-dire que le sport, pour moi, c'était sport collectif.
Mais les mots sont super durs, ce que tu utilises, en fait. Tu dis, le sport, la honte... Enfin, se résumer le sport, c'était la honte, le harcèlement, la peur et la tristesse.
Parce que, si tu veux, te retrouver toujours sur le banc... On te disait clairement qu'on voulait pas toi dans l'équipe, tu vois.
Ouais.
dire dans le sens, même si tu avais voulu essayer ou si tu avais voulu te dire, déjà même avant d'avoir essayé d'ailleurs avec moi, par rapport à mon physique ou par rapport à ce que tu pouvais renvoyer, qu'ils avaient déjà décidé que non, tu vois, alors ça, si c'est pas du harcèlement, voilà. Et puis bon, après, il y en avait plus que ça, parce que comme j'étais un peu chétif et un gosse, justement, ça reboucle en dehors du sport avec le fait que j'étais pas mature, comme tu le dire, et comme tu arrives quand tu es en sixième, comme un gamin de CM2, voire plus jeune encore, parce que moi je pense que je faisais beaucoup plus jeune, bah tu te fais chambouler par les autres, quoi. Tu te fais pousser. En plus, il faut toujours trouver quelqu'un qu'on va emmerder, hein. Et puis, bien sûr, ceux qui sont à la limite de se faire emmerder aussi, ils t'emmerdent toi, parce que comme ça, ils se mettent du bon côté. Tout le monde se met du bon côté et tu finis par être la personne qu'il faut dire abattre. En tout cas, la personne qu'il faut emmerder. Je me suis fait piquer mon sac, je me rappelle à l'école, mais des trucs hallucinants, quoi. Tu vois? Des trucs qui ont été assez violents, hein, qui ont été durs à vivre. Et c'est vrai que des fois, quand j'ai fait ce poste, j'étais un peu, je vais pas dire sur une revanche, mais tu te dis quand même, voilà, parce que des mecs de ces mecs-là, je les connais plus, mais il y en a certains que j'ai revus de mes classes. J'ai vu aujourd'hui, je me suis dit, ah oui, effectivement, on n'a pas du tout été dans le même sens. Hein.
Ouais, je pense
Bon, après,
qu'ils
je
ont
vais pas faire
pas
de...
gonflé du même endroit, eux, hein,
Non,
franchement.
voilà, c'est ça. Je vais pas faire de comparaison, mais j'en ai vu un certain nombre. Je me suis dit, waouh, ah ben ouais, effectivement, ouais.
Non mais et tu sais, et tu peux le dire la comparaison, parce que moi j'ai croisé d'anciens collègues de mon travail, mon ancien chef qui m'a fait chier pendant des années, pendant plusieurs mois et tout, qui m'a fait partir pour harcèlement, sur harcèlement. Je l'ai recroisé un jour et j'ai dit bah heureusement que je me suis pas transformé en lui, que j'ai changé moi dans mon sens, parce qu'il était devenu gris mais gros, rond, pas beau et tout. Et je le dis très clairement, hein, franchement. Et tous ces caïds là, en fait à l'époque, en plus ils étaient physiquement, ils faisaient rien de spécial, mais pour être avantageux ou
Non,
quoi que ce soit, je veux dire,
non,
c'était la nature qui leur a donné ça.
c'est ça.
Bah, quand tu regardes maintenant, quelques années plus tard et tout, par rapport à toi, tous les efforts que tu fais, bah, franchement, moi, je parle d'une revanche, tu vois, très
Ouais,
clairement, tu vois.
c'est clair. Moi, je dis toujours, j'utilise un mot qui est hyper fort et c'est pas très karmique. Donc, ça va encore.
Ouais.
Mais je dis, ils ont un peu daubé, ouais.
Ils ont un peu doux. Ouais, tu sais, moi, je suis à Cortoltech, sauf pour ça. Alors, tu peux y aller, franchement, ne dis pas du mal de ton truc. Ouais, si, eux, quand même, ils méritent un peu.
Eux, moi, je me permets parce que, en fait, je le fais jamais pour perdre. C'est vrai que je suis pas dans ça non plus. C'est-à-dire que par rapport au yoga, par rapport à ma position, ma bienveillance et tout ce que je mets en place, je dirais jamais ce genre de choses. Mais alors, par contre, ceux qui m'ont vraiment fait souffrir ou qui m'ont vraiment emmerdé, je vais pas dire œil pour œil, dent pour dent, parce que, encore une fois, c'est complètement con aussi. Mais par contre, quand même, je veux dire, il y a un moment où c'est une certaine revanche de se dire aussi, moi j'ai évolué, justement, j'étais peut-être celui que vous chambouliez à l'époque, mais j'ai évolué dans le bon sens. Vous, je me pose juste un peu de questions quand même par rapport à ce que ça vous a apporté, et justement, pour le coup, ça vous a, votre karma, il a plutôt marché dans l'autre sens. Hein. Que ça vous avez un bon retour de boomerang, quoi.
Mais n'empêche que après tu dis, t'as fallu des années pour rebondir tout ça quand même.
Ouais, parce qu'en fait, il y a eu le collège. Ensuite, il y a eu le lycée. Bon, le lycée, ça s'est amélioré un petit peu parce que tu grandis quand même. J'ai toujours été un gamin quand même un peu, je vais pas dire immature, même ado. Tu vois, t'as tout le passage de la puberté, etc., qui sont des moments quand même compliqués parce que, comme tu disais tout à l'heure, souvent chez les filles, c'est un peu plus. Je vais pas faire de genre, mais elles sont un peu plus en avance. Les mecs, c'est très aléatoire, quoi. Les mecs, il y en a qui sont très avancés, qui font adultes. Tu vois, la barbe, machin, la grosse voix, tu sens qu'ils sont hyper virils et tout ça. Puis t'as d'autres mecs, ils peinent là-dessus un peu 4 ans en retard, tu vois. Moi, j'étais plutôt de ce côté-là. Et donc, forcément, tu t'es emmerdé aussi au lycée, tu vois. Donc, ça continue. Alors, un peu moins, malgré tout, ça n'a pas duré très longtemps. Puis au lycée, là, je me suis un peu affirmé parce que, tu vois, quand le bac arrive, au bac, tu choisissais tes sports. À mon époque, on choisissait les sports. J'ai pris des sports où personne ne voulait aller parce qu'il y avait des sports qui me plaisaient. Donc, il y avait la natation, parce que j'étais plutôt bon, donc j'ai pris la natation. Il y avait la gym au sol et aux agrès, que me prenait, que j'ai pris. Donc, tu vois, tout ce qui est mouvement, équilibre, salto, machin, les barres parallèles, c'est un truc que j'aime bien, moi, tout ça. Donc, et pourtant, j'étais pas musclé comme je suis aujourd'hui, mais ça me plaisait vraiment. Et puis après, il y avait le hand. C'était le truc, je pouvais pas faire un choix, j'étais obligé de choisir les deux autres et le hand. J'ai pris le hand, pas très très bon le hand, mais ça allait mieux. Et donc déjà à ce moment-là, j'ai commencé à me réaffirmer un peu, tu vois, je chantais que... Et même sur tout ce qui était course à pied, hein, je l'ai reparti avant, mais au collège, on faisait des crosses, j'étais plutôt bon, je finissais plutôt bien classé à
Oui,
chaque
tu le
fois.
dis, ouais.
Donc ça me redonnait un peu de satisfaction quand même. Puis avec ma mère, on allait à la piscine toutes les semaines, on allait au tennis, on faisait du vélo, donc il y avait quand même du sport. mais plus, encore une fois, individuel. Donc, j'aimais pas trop le sport, les sports co. Puis après, j'ai un peu laissé tout ça tomber. J'ai fait mes études supérieures. Et c'est au moment où je suis arrivé à Paris que j'ai pris un poste. J'étais dans l'informatique. J'étais assis toute la journée. Là, j'ai commencé à me dire, j'avais un peu plus de 20 ans, 24, je crois. Je mangeais normalement, mais tu vois, quand t'es ado, ça part vite. Moi, j'avais la chance de pas trop grossir et tout ça. Puis d'un coup, je me suis dit, ah, ça... j'ai l'impression que je m'arrondis un peu, que je sais pas, je suis pas très musclé, machin. Et je voyais des salles de sport dans les rues. Je venais juste d'arriver à Paris. Je me suis dit, il faut que je m'inscrive dans une salle de sport. Et par mon CE, je me suis inscrit dans une salle de sport. Et c'est là que tout a démarré, en fait. J'ai rencontré des coachs. Ben, j'ai rencontré un coach, hein, qui est devenu un pote avec qui j'ai fait de la muscu. J'ai transformé mon corps. J'ai commencé à transformer sur la première année. Puis là, je suis devenu adepte des cours de fitness à un moment. J'ai fait de l'aérobic et tout ça, mais 15 heures par semaine, quoi, pendant plusieurs années. C'était un peu, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai adoré ça. Et là, j'ai pris des cours de hip-hop. Je faisais des
D'accord.
conventions de fitness, des journées entières. Tu sais, c'était pas du running, du ultra. C'était
Ouais.
samedi, dimanche, t'enchaînais des cours de step toute la journée, genre 6 heures le samedi, 4 heures le dimanche.
T'avais
Voilà.
quoi, une star, t'avais des gens sur un podium qui faisaient des trucs, tu en
Ouais,
faisais comme eux là?
c'était ça. C'était vraiment très bizarre. Moi, c'était plus dans ces années-là aussi, tu vois, parce que pour revenir quand même, bah, 20 ans en arrière, quoi, tu vois, bah, 15, 20 ans.
Les gens se rendent pas compte qu'on a connu Véronique et Davina, qu'on a
Ah,
connu
bah,
tous ces trucs-là, quoi.
alors voilà, encore un cliché pas très viril pour moi, mais j'adorais Véronique et Davina. Je me rappelle, c'était le dimanche. Je trouvais ça quand même c'était drôle. Enfin bon. Et donc, j'ai retrouvé un peu, c'est vrai qu'il y avait un peu ce truc-là, hein. C'était tout ce qui était gymnase club, etc. à l'époque. Donc j'en ai fait pas mal. Puis après, je me suis reconcentré un moment sur la muscu et sur la course à pied. J'ai arrêté un peu les cours collectifs et je me suis mis à courir. Et là, on arrive à maintenant. Mais il y a eu cette phase fitness au milieu qui m'a redonné un peu confiance en mon corps aussi. Parce que je pense que c'est aussi ça. Et les gens que j'ai rencontrés d'ailleurs, alors j'ai eu la chance de rencontrer souvent les bonnes personnes. J'ai rencontré des profs géniaux dans les salles de sport. Et on a fait des soirées. Je suis parti en vacances avec certaines personnes quand j'étais célibataire à l'époque. Et c'est vrai que ça m'a permis de transformer ce corps, en fait, et puis de l'assumer, quoi, parce que je pense que tout ça, ça allait pas, j'étais pas bien dans ce corps-là. Et tout ça venait aussi de toutes ces phases de l'école, hein, c'est pour ça que le poste, je l'ai mis avec ces mots un peu forts, parce que j'entends souvent, je discute souvent avec des personnes qui sont dans les mêmes situations. Donc, je suis pas le seul, hein, pour le coup. Et aujourd'hui, je vois effectivement ça un peu comme une revanche, quand même.
Mais t'avais quel âge quand tu t'es mis, tu dis autour de la vingtaine, jeune adulte, quand tu t'as commencé?
Quand j'ai recommencé, ouais, c'est ça, ouais, à peu près. Après, la muscu, dire que la transformation que j'ai aujourd'hui, elle est plutôt sur les dernières années, sur ces dernières années, en fait, tu
C'est ce que
vois.
j'allais te dire. Ouais.
Ouais, parce que, en fait, ce qui est complémentaire dans ma pratique et ce qui fait que, c'est que je fais beaucoup de cardio en définitive avec la course à pied, le triathlon, etc., mais c'est un peu musculaire aussi, hein, quand même, parce que le triathlon, le vélo, la natation. Mais je fais aussi de la muscu pour essayer de compenser la masse, tu vois. Donc souvent, quand tu fais que de l'ultra fond, bah t'es tout mince. Quand tu fais que du marathon, bah t'es comme les formats qu'on voit, hein, les premiers du marathon, ils sont pas très épais en général. Donc moi, j'essaie de garder un corps qui soit un peu équilibré. Et c'est vrai que plus je fais de running, plus je sèche.
Ouais.
Donc ça fait souvent une musculature qui est quand même assez dessinée, assez sèche, puisque mon but, moi, c'est pas de prendre de la masse pour prendre de la masse, parce que si je prends de la masse, après, il faut que je la transporte quand je cours. Donc, c'est pas forcément une bonne idée, tu vois, d'avoir des dizaines de kilos de muscles si tu dois faire 80 km. Tu vois?
Ouais, mais après tu dis effectivement t'es dessiné. Enfin, franchement, j'étais en train de regarder la photo que t'as à la piscine là et tout. Les gens quand ils te croisent, ils pensent pas que t'as 47 ans.
Non, alors ça c'est vrai par contre. Ça c'est drôle parce que on me l'a redit il y a encore pas longtemps, on me l'a dit au bureau, je crois. Et souvent, c'est ce que les gens ne donnent pas du tout cet âge-là, me donnent plus, mais vraiment pas mal d'années en moins. Bon, après, pas beaucoup de cheveux, alors c'est plus,
C'est
donc
pas
ça,
grave
c'est
ça.
pour quel âge?
C'est la mode, c'est tendance, la mode.
Mais c'est vrai qu'on me le dit souvent, et je pense qu'on me le dit souvent aussi par rapport à ce que je peux faire, ce qu'on voit sur les réseaux et ce que je peux faire comme sport, les défis que je peux me donner, etc. Forcément, il y en a qui doivent se dire, bon, il est plus jeune, tu vois. Mais c'est bien, ça montre que, voilà, il y a des gens qui font des marathons, comme tu disais tout à l'heure, à 70 ou 80 ans. Hein, le marathon des sables, le plus ancien, je crois qu'il a 80 et quelques. Hein,
Ouais.
donc voilà, c'est pour ça que, ouais, je pense que ça conserve quand même de faire du sport, ça c'est clair. Hein. Et puis, ce qui est important aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette mobilité. Moi, j'essaye de vraiment ce que je veux garder au maximum. C'est ma mobilité de corps, c'est-à-dire réussir à continuer à faire des mouvements les plus facilement possible au quotidien. Je sais pas, attraper un truc dans un placard, faire mes lacets, attraper la ceinture dans la voiture sans me faire un
Ouais.
lumbago, parce que c'est tous ces petits trucs-là que les gens, tu vois, combien de fois j'entends des amis qui me disent, ah, je me suis coincé le dos en mettant ma ceinture. Et pendant 3 semaines, je ne peux plus bouger mon dos, quoi, tu vois. Et ça, c'est pas, je ne vais pas dire que ce n'est pas normal. Après, tu as des pathologies. Hein. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné. Mais il y a aussi des trucs pour prévenir un peu tout ça, en tout cas pour garder cette fluidité dans ton corps. Et je pense que tout ça, bah, ça rend plus jeune dans ta tête et ça rend plus jeune dans ton corps. Parce que si à 30 ans, tu te sens déjà un peu grippé et coincé, bah, forcément, ça ne t'aide pas à rester jeune dans ta tête, tu vois. Bah,
Mais il y a une étude, dans un épisode avec Romuald Lepers, alors je suis toujours bête. Alors c'est le 20 mars qu'on enregistre. Et ce qui est marrant, c'est que je l'ai monté ce matin pour être publié dans 2 jours. Donc, quand l'épisode sera diffusé, il aura été diffusé depuis presque 3 semaines. Me disait qu'en fait, des études ont montré que les gens qui font du sport s'imaginent environ avoir 10 ans de moins dans leur tête, à peu près. Tu vois, dans les défis, etc., que c'était des études qui ont été faites. Et ce qui est marrant, c'est que quand on voit les défis, quand on voit ce que tu fais, etc., c'est vrai que moi, tu sais, quand j'étais jeune, l'image des vieux de 40, 50 ans, pour moi, ils étaient vraiment vieux, tu vois, ils faisaient pas grand-chose, ils étaient vieux, enfin, dans ma tête. Et, bon. Et longtemps, je les ai vus vieux, ces gens-là. Et en fait, quand maintenant, on regarde ce qu'on fait, en fait, on se dit, mais on peut faire plein de trucs.
Bah, tu m'étonnes. Non, mais c'est. Oui, alors après, je pense qu'effectivement, bon, après, l'âge, c'est toujours, c'est un truc, c'est tellement pas subjectif. Mais dans nos têtes à nous, même si on était même plus âgé, je pense que tu peux. Alors, il y a des gens qui ont sûrement leur âge dans leur tête aussi. Puis, il y en a d'autres qui sont sûrement beaucoup plus jeunes. Et effectivement, moi, aujourd'hui, je me dis pas, j'ai 47 ans ou je vais avoir 50 dans 3 ans, en fait, tu vois. Parce que, alors, voilà, c'est 50. Oui, bien sûr, tu te dis, ah, merde, 50 quand même.
Fait
Et
chier.
c'est un bel âge quand même, mais fais chier. Tu te dis, oui, effectivement, j'aurais jamais plus 40 et 40 ans. Mais de toute façon, c'est comme ça. Tous les ans, ça change. Mais par contre, c'est vrai que dans ma tête, je me dis pas que j'ai cet âge-là. Et c'est pour ça que je peux me lancer tous ces défis et me dire, parce que si je me disais, oh, j'ai 50 ans, je suis trop vieux. Bah oui, bah dans ce cas-là, je le fais plus alors. Tu vois, mais non, je me dis pas ça. Et je me dis, bah non, tant que mon corps, il me le permet et tant que moi, je me sens bien à l'intérieur de ce corps, je vois pourquoi je me limiterais dans les défis. Même d'ailleurs, quand je vais avoir 50 ans ou quand j'en aurai 55, si je suis pas malade, que j'ai pas de problème, je vois pourquoi je serais pas des Ironman à 55 ans, quoi. Tu vois?
Ouais, puis tu continueras à faire des équipes sur les mains n'importe où.
Exactement. Bon, on va essayer de pas se péter un truc, mais à la limite, tu sais, en même temps, mes équilibres sur les mains, je suis déjà tombé, je sais sortir de mes équilibres, je suis assez flexible, donc forcément, je me réceptionne. Je mets au défi quelqu'un qui ne le fait jamais et qui a 30 ans ou qui a 25 ans, j'en ai vu, hein, j'en accompagne des gens. Et ben, quand je le vois faire, j'ai un peu peur, tu vois, je me mets à côté parce que je dis, quand la chute va arriver, ça va être violent, quoi. Donc, tu vois, j'ai pas tombé de la même façon du tout que lui. Et ça se trouve, il va se péter quelque chose. Et moi, non, en fait. Donc,
Ouais,
c'est très. C'est aussi la pratique, c'est aussi ce que j'ai fait avec mon corps, comment je l'ai transformé, qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus flexible ou autre. Et ben, c'est aussi ce qui fait l'âge, hein, je pense. C'est ce qui renvoie, en tout cas, cette image de se dire quel âge je peux avoir. D'ailleurs, souvent, les gens, ils se risquent pas quand ils savent pas, ils me disent pas.
Mais alors, ce qui est étonnant, alors bon, bien sûr, maintenant qu'on sait que tu fais du yoga, les gens vont pas être étonnés, mais c'est ta souplesse et c'est qui est super importante. Mais on parlait tout à l'heure de l'importance de la mobilité. On disait que c'est important de pas se faire un tour de rein quand tu mets. Tu sais, moi, il y a un jour, je me suis fait mal en mettant une chaussette. C'est quand j'ai mon problème de hernie sciatique. Mmh. En enfilant mes chaussettes qui sont un peu serrées des fois, et j'arrivais pas à la mettre. Et un jour, ça m'a tiré, mais vraiment mal. Et le moment où j'ai le plus mal sur ma hernie, ma sciatique, il y en a qui s'en sont rendus compte. Tu sais comment? Parce qu'ils voyaient que je courais sans chaussettes. Je mettais, tu sais, j'ai des lacets silicone. Je mettais les pieds dedans, puis je partais courir. Et j'ai couru pendant 2 mois sans chaussettes. Parce que comme ça m'évitait de mettre mes chaussettes, parce que j'avais trop mal à cause de la hernie et de la sciatique. Mais quand je vois ta souplesse que tu as là, comme ça et tout. Alors bien sûr, ça fait des années de yoga, hein, on ne devient pas souple comme ça, etc. Mais n'empêche qu'avoir cette souplesse, cette mobilité, être capable d'attraper des trucs sans se tordre ou quoi que ce soit, pour moi, c'est un gage, tu vois, de devenir ce que j'appelle le vieillard galopant, d'être un petit vieux qui pourra faire des trucs quand même.
Bah ouais, parce que surtout qu'on sait que, et ça je le répète à tous mes yogis, mes élèves en général, on sait que bah avec l'âge, on a plutôt tendance à faire l'inverse, quoi. L'âge, ça a plutôt tendance à nous faire de l'arthrose, à nous faire des muscles un peu plus tendus, à avoir des petits problèmes articulaires, des douleurs, etc. Donc, et pourtant j'ai plein d'élèves plutôt plus âgés qui sont toujours très mobiles. Donc je pense que, en dehors des pathologies, comme tu viens de le dire, il y a aussi les sciatiques, etc. Ça, c'est très spécifique parce que tu peux pas te protéger de tout. C'est-à-dire que sciatique, tu peux avoir une pathologie, tu peux avoir un nerf coincé, tu peux avoir des choses que tu pourras pas soigner par le yoga. Hein. C'est pas une science miracle non plus. Des fois, il faut opérer, des fois.
Ouais, mais je te raconterai un truc après quand même.
Mais par contre, tu peux quand même. Moi, j'ai plusieurs personnes, plusieurs. Connaissances profs de yoga qui font des cours spécifiques sur les soins du dos, sur comment prendre soin de son dos, etc. Et ils sont pas kinés, ils sont pas. Voilà. Par contre, un d'eux d'ailleurs a eu une dégénérescence importante, etc. vertébrale, et il a utilisé le yoga pour accompagner sa guérison, on va dire. Et ben n'empêche, aujourd'hui, il a plus vraiment de douleur et il a réussi à appliquer des choses sur lui qu'il arrive à faire appliquer sur les autres, tu vois, qu'il arrive à... Il dit pas que ça va être salvateur, il dit juste que ça peut aider les personnes. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut prendre tout ça. Bon, après, on a tous une... Comme tu disais, on peut aussi avoir une souplesse naturelle au départ, moins importante. Il y a des gens qui sont très souples dès le départ, des gens qui ne le sont pas du tout, qui sont hyper raides. Mais on a tous à gagner, tu vois, je veux dire... quel que soit son niveau, le but, encore une fois, c'est pas de faire le grand écart, le but, c'est pas de mettre les mains par terre, le but, c'est pas... À chaque fois, je le répète, et ça, c'est vraiment difficile à faire passer, quand je donne des directions en yoga, de descendre vos mains vers le sol, je dis pas qu'il faut les poser au sol, ça sera jamais un objectif ni un challenge, c'est une direction, c'est juste une indication. Et donc, voilà, et ça, je pense qu'il faut vraiment le répéter tout le temps, parce que sinon, pour les personnes, le but, c'est de faire ça, tu vois. Faire ça pourquoi en fait ? Faut qu'il y ait une finalité.
Bien sûr. Et tu sais, pour revenir sur l'anecdote que je vais te raconter, moi, sur le cas de ma hernie, elle n'était pas détectée encore. On n'a pas vu que c'était une hernie. Et puis après, l'ostéo m'avait dit, de toute façon, il me dit les hernies, il y a 50% des gens ont une hernie, il y en a 10% ou 20%, je ne sais pas combien ça se déclenche. Il y en a qui en a mal et d'autres ont pas mal. Mmh. Et moi, le pire, c'est que des fois j'ai mal et des fois j'ai pas mal. Ouais, c'est le truc. Et il m'a fait faire des mouvements. Il m'a donné un exercice, en fait. Et cet exercice, je lui ai dit, mais c'est du yoga, ton truc, là. Et en fait, tu sais ce que c'était ? Ça ressemble à un petit peu le cobra. Tu vois, grosso modo.
Extension arrière, ouais.
Extension arrière. Et j'avais vu des vidéos de Major Mouvement il n'y a pas très longtemps qui disaient que dans certaines personnes, ce qui les soulage, c'est l'extension. Et dans d'autres, tu sais, c'est la flexion. Qu'il faut trouver le mouvement qui te soulage d'aller vers le mouvement. Et moi, en fait, il m'avait donné cet exercice. Il m'avait dit, tu fais 10 fois tous les matins. Alors après, j'ai toujours une différence, mais je vais pas te demander, mais sur internet on trouve la différence entre un cobra et un chien tête en haut. Alors des fois je fais l'un, des fois je fais l'autre, etc. Mais en tout cas, l'extension me fait du bien. La semaine dernière, après mon trail, je commence à avoir mal. Toute la semaine, j'ai refait des exercices, et ben petit à petit c'est passé. Et j'ai un kiné aussi qui est spécialisé McKenzie, qui m'a donné un truc, tu sais, se mettre à quatre pattes avec tu sais, faire le chien, tu sais, tu creuses le chat, tu sais, tu creuses, tu
le dos rond,
dos rond, dos creusé, etc. Ouais. Et j'ai refait ça, tu vois, j'ai refait ces exercices simples, etc. Et donc la fameuse kiné, j'avais dit envoyer ça, qui j'ai dans le kilomètre 50, m'a dit, mais en fait elle me dit c'est parfait, c'est la mobilité, faut garder la mobilité du dos, etc. Et c'est là où je reviens sur ces trucs de yoga qui où c'est sûr que tu as des positions qui sont impressionnantes, tu regardes sur internet, tu as des positions dans tous les sens, mais les positions de base, moi tu vois, je trouve par exemple cette position-là, moi, elle me sauve, je te garantis. Dès que j'ai mal, et tu vois, tous les matins, alors, il faut que je la fasse 10 fois, tu vois, tenir un petit peu, de plus en plus, etc. Mais n'empêche que ça paraît bête, comme ça, mais n'empêche qu'elle est super efficace, en tout cas pour ce que j'ai. Et c'est un ostéo qui me l'a conseillé, tu vois, c'est même pas un prof de yoga ou quoi que ce soit. Non, naturellement, je m'étais rendu compte qu'elle me soulageait, et après, je vois après les différences, etc. Mais c'est vrai que moi, je vois qu'il y a des trucs du yoga qui sont quand même super intéressants. Et tu vois, ça, la mobilité, enfin, sur la hernie, je m'étais rendu compte que moins tu bouges et plus c'est pire.
Ouais, voilà, il y a des trucs dans les hernies qu'on ne fera pas en yoga, sur les sciatiques, tout ça, il y a des trucs qu'il faut faire attention parce que ça peut réactiver.
Ouais.
Forcément, tu vois, un kiné, il le dirait selon le positionnement. Donc, moi, je ne suis pas kiné et je ne suis pas ostéo, mais, ni médecin, mais il y a des choses qu'il faut, sur lesquelles il faut faire attention. Par contre, c'est vrai que les méthodes McKenzie, elles sont connues, hein, des kinés. Hein. Les kinés, c'est la première chose qu'ils te font faire. Je veux dire, sur les lumbagos et toutes les zones, sur les lombaires, hein, sur le bas du dos, les extensions arrière. Alors, ma jambe mouvement, il le disait, hein, justement, ça peut être des flexions, donc aller vers l'avant ou l'extension, aller vers l'arrière en général. On parle moyennement de flexion arrière. Il y a des gens qui parlent de flexion arrière. Moi, j'aime pas ce que je dis, toujours extension arrière, flexion avant. Mais l'extension arrière, c'est hyper assez salvateur pour beaucoup de gens, malgré le fait qu'ils pensent que ça peut leur faire mal, parce que c'est pareil, il y a une méga légende urbaine sur le fait d'emmener la colonne vertébrale vers l'arrière, où il y avait des médecins à l'époque même qui te disaient qu'il fallait surtout pas faire ça. Donc, parce que tu te dis, ça peut faire qu'aller vers l'avant, la colonne, tu vois. Vers l'arrière, ça n'y va pas. Et pourtant, quand tu te libères et que tu fais le cobra, par exemple, même un léger cobra, j'ai toujours un bébé cobra, tu vois.
Un petit cobra.
Voilà, mais je dis ça au yoga, je fais un petit cobra ou un bébé cobra. Et c'est-à-dire que tu plies un tout petit peu les bras et tu laisses le nombril sur le sol, tu vois, tu remontes pas beaucoup. Et bien déjà, c'est salvateur, le sphinx, hein, mettre tes avant-bras sur le sol, hein, tu vois. Et donc, tu sens tes lombaires. Et déjà, ça suffit. Et ça sauve un certain nombre de personnes sur le lumbago, par exemple. C'est hyper, hyper efficace. Les kinés, ils le font souvent. Et c'est vrai qu'en yoga, on fait beaucoup d'extensions arrière. Donc oui, tu as raison, il y a plein de postures. J'allais dire, il y a plein de postures à la con. Je vais me faire déglinguer par la police du yoga. Non, il y a plein de postures. Il y a trop de trucs sur Instagram où c'est... Bah oui, forcément, tout le monde met sa meilleure photo et sa plus belle photo avec le plus beau sourire du monde. Il s'est pété la gueule 10 fois avant de le faire. C'est magnifique, c'est beau, c'est machin, mais ça sert à quoi? Tu vois? Parce que, ok, c'est beau, mais il faut que ça apporte quelque chose. Alors, sûrement qu'à ces gens qui font ces postures, ça leur apporte quelque chose. Par contre, pour les autres autour, peut-être que tout le monde n'a pas envie de se mettre en équilibre sur les mains, hein, ou sur la tête, ou sur un bras, ou je sais pas. Tu vois? Donc, il faut toujours que le yoga, ça reste un outil, et puis que ça reste quelque chose qui t'apporte quelque chose. Il faut toujours en comprendre la finalité pour soi, voilà, sans vouloir copier ce qu'on voit à l'image et faire exactement la même chose pour faire ça. C'est pas un challenge. Voilà.
Et il n'y a jamais personne qui t'a dit que tu allais te péter les genoux avec les positions que tu prends, des fois?
J'allais me péter les genoux?
Ouais, parce que tu as les genoux, tu sais, quand tu te mets vachement en arrière, ça doit tirer sur les genoux et tout. Tu sais, ça fait partie des légendes urbaines aussi. Il ne faut jamais mettre les genoux au-dessus des pieds quand tu fais des squats. Il ne faut pas les plier trop dans un sens. Il ne faut pas que ça aille trop la cheville. Il ne faut pas qu'elle bouge trop. Tu sais, tous ces trucs-là. Le yoga, il va totalement à l'inverse en plein de trucs, en fait. Enfin, il montre que c'est possible, en fait.
Là, il faut que je te mette en contact avec une super copine qui est prof de yoga et qui détruit tout ça en permanence. Qui s'appelle Sandrine Martin, d'ailleurs. C'est la prof qui m'a fait une formation sur du yin yoga, sur les étirements. Elle est hyper pro en anatomie. Et elle parle tout le temps des variations anatomiques des gens, parce qu'en fait le problème, c'est que les gens, ils sont tous différents. D'un bassin à l'autre, c'est différent, et donc elle détruit tous ces trucs. On n'arrête pas de détruire sur Instagram. Moi, je prends des posts, on s'est amusé la dernière fois, on prenait des posts. Alors, c'est pas très sympa, mais c'est des grands groupes en général, hein, qui te disent le grand écart en 15 jours, des coachs qui te proposent de faire des équilibres en une semaine, et en fait ils prennent pas en considération le corps des gens. Ils disent, tu vas faire le grand écart, hop, tu vas mettre les pieds de chaque côté là en 15 jours. Ouais, mais il y a des gens qui pourront jamais le faire parce que leurs os, ils sont bloqués sur leur bassin, en fait. Ça ira jamais plus loin, hein. C'est pas les muscles, hein, qui bloquent, hein. C'est leur ossature. Et elle est géniale pour ça, elle te déglingue tout ça en permanence. Donc c'est assez drôle que tu me dises ça, parce que ouais, il y a plein de légendes urbaines. Personne m'a jamais rien dit, tu vois. Si, alors il y a des gens qui me disent, putain, moi je fais ça, je me pète le dos en deux. Ou alors, je fais ça, je reste coincé. Mais en plus, sûrement, parce que si tu fais ce que fais moi, alors que tu fais pas de yoga et que t'as jamais fait d'assouplissement et que moi j'en fais depuis 20 ans, bah forcément tu vas te coincer. Tu vois, déjà, je le dis souvent dans mes posts. je vais marquer, je vais mettre une posture, je vais dire les extensions arrière sont bonnes pour la santé pour ça, ça, ça et ça. Je dis attention, la variation que je fais, c'est une variation avec une option très avancée. On peut bien sûr faire autrement et faire ça. Oui, c'est comme quand tu fais le lotus, hein, que tu passes une jambe sur l'autre et que tu croises les jambes, tu sais, tu as les genoux très contorsionnés.
Donc, j'y arrive pas.
Bah voilà, alors si tu n'as pas une ouverture de hanche très importante, bah, tu vas vachement compenser par les genoux. Et ce qui fait que tu vas torsionner les genoux, ce qui peut être pas très bon. Et puis tu vas aussi torsionner tes chevilles qui vont être montées à fond et tu vas, pourquoi pas, à force de tirer les chevilles, te faire des foulures des chevilles. Tu vois, parce que tu vas les rendre un peu plus laxes. Ouais. Donc, tu peux te faire mal, il faut pas faire n'importe quoi. En fait, il faut, encore une fois, tu sais, en yoga, il y a un précepte qui dit, qui parle de la non-violence avec le corps. C'est un des étages de l'arbre dans le yoga. Il faut pas se faire de la violence sur son corps, donc il faut en prendre conscience. Voilà.
Mais tu sais, moi, il y a un truc que j'arrive pas à faire, mais je pense que c'est aussi une question de non-travail sur truc. Tu sais, c'est être assis là. Comment, je l'appelle ça squat bas, tu sais, mais tu sais, quand tu es assis sur tes pieds, sur tes
talons, bah, sur tes pieds et que tu descends assis avec les bras entre les jambes, là, les mains.
Moi, techniquement, il y a un truc qui passe pas, mais en fait, je me suis rendu compte aussi, parce que j'ai acheté des livres sur le sujet, il y a des gars qui parlent, tu sais, de souplesse des chevilles, qui parlent
de souplesse. Tu peux ne pas t'y mettre dans cette posture. Ouais. Tu peux ne pas t'y mettre, complètement. Ouais.
Mais qui parlent aussi qu'en fait, on peut s'entraîner et que notamment pour la course à pied, il y a des choses qui seraient utiles. Tu sais, alors après, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Ça, c'est toujours une question. Et on parle du renforcement, on parle de tout ça. Mais qui montrent qu'en fait, c'est pas parce qu'on est bloqué à un moment donné qu'on est bloqué pour le reste de sa vie. C'est-à-dire qu'on a des exercices qui permettent de le faire, qui permettent de progresser et tout. C'est ce qui est intéressant. Et qui vont d'ailleurs à l'encontre de ces fameuses théories légendes urbaines qui disent faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Parce que eux, ils montrent qu'au contraire, c'est ce qui renforce et que le genou, il est fait comme ça. Et que si maintenant, on n'y arrive plus à le faire, c'est plutôt qu'on a un souci. Parce que techniquement, on pouvait le faire, mais c'est juste que notre genou fonctionne moins bien au point qu'il n'arrive plus à le faire ou que nos muscles sont raccourcis, qu'on a de certaines tensions, etc. Et c'est ça aussi qui, tu vois, qui un peu chez les gens, c'est qui trouble un peu les gens, c'est-à-dire qu'ils disent, mais ce truc-là et tout, pourquoi lui, il arrive à le faire, moi, j'arrive pas à le faire et tout, mais lui, il va se faire mal. Alors qu'en fait, il ne devrait pas se dire, il va se faire mal. Il va dire, mais tiens, c'est cool d'avoir une telle mobilité, ça peut être utile.
C'est ça, ce qui est dingue, c'est souvent l'image que renvoie une posture. C'est-à-dire que tu prends deux personnes qui font des extensions arrière, on en parlait tout à l'heure. Tu vas en voir une nana qui va, ou un mec qui va descendre derrière, il va aller mettre ses mains par terre, tu sais, direct, il va être presque cassé en deux. Tu vas voir sa colonne, elle est courbée. Et les gens, ils vont regarder ça, ils vont dire, oh, ça fait mal. Et comment il fait ça? Il va se tuer le dos, en fait. Mais non, parce qu'en fait, c'est son anatomie qui fait comme ça. Il peut aller à ce niveau-là. Alors que l'autre à côté, il n'y arrivera jamais. C'est comme tu entends tout le temps, ça, la personne dont je parlais tout à l'heure, Sandrine, elle en parle tout le temps. Quand tu fais des guerriers ou quand tu fais des fentes, par exemple, avec une jambe en avant, on va prendre une fente, tu sais, tu plies le genou à l'avant. Et tout le monde dit, n'emmène pas le genou plus loin que tes orteils. Genou vers l'avant, parce qu'il faut surtout pas, parce que c'est mauvais pour le genou. Bah, vas-y, trouve-moi la théorie qui dit que c'est mauvais pour le genou sur Internet. Cherche, parce que, en fait, moi, j'ai aucune notion nulle part de ce que ça te fait. Il y en a qui disent que c'est avec le temps, ça peut abîmer le plateau tibial, machin. Ça serait intéressant de poser la question à ma jambe mouvement, parce que, tu vois, justement, ou à des kinés et autres, personne n'aura la même réponse. Parce qu'en fait, c'est des trucs que tout le monde dit, mais on sait pas pourquoi on le dit. Bah, on le dit juste comme ça, parce que c'est plus propre en alignement. Et puis parce que ça fait peur d'aller le genou plus loin, parce qu'on a l'impression qu'on peine et qu'on force le genou. Pour certaines personnes, ça fait rien, pour d'autres, c'est gênant. Donc, il faut plutôt adapter ça. C'est exactement en yoga, c'est pareil. Tu sais, t'as le Iyengar et le yoga un peu classique des alignements, où ils disent, il faut mettre les pieds comme ça, faites toucher vos orteils, écartez vos talons, etc. Il y a des gens, tu les repositionnes, bah, ça fait bouger l'épaule, ça fait bouger le haut. Tu bouges le haut, tu bouges l'épaule, hop, ça refait bouger le pied en bas et tu dis, mais non, ton pied! Et là, c'est hystérique, quoi, tu vois, t'es en train de bouger quelqu'un, en train de la torturer pour aligner ton pied avec son genou et sa tête et machin, mais ça marche pas. Faut arrêter de délirer, de contorsionner les gens alors qu'ils viennent juste pour faire un cours de yoga et faire de la mobilité, justement. Donc, les alignements, quand c'est pour protéger le corps, ok. Quand c'est juste pour faire beau, ça sert à rien.
Voilà. Et puis, rappelons aussi, hein, quand on voit les gens faire, on ne sait pas en fait l'expérience qu'ils ont, les années et tout. Parce que quelqu'un qui te voit faire, il ne sait pas que ça fait des années que tu fais du yoga. Déjà, il ne pense pas que tu as 47 ans, il pense que tu en as 23. Donc, tu lui dis, j'ai commencé le yoga à 20 ans. Il dit, ouais, bah, attends, c'est un petit jeune qui débute.
T'exagères quand même.
Non, mais je voulais être gentil avec toi. Non, mais après, et franchement, je pense qu'il y a plein de gens qui, quand ils te découvrent, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui vont voir ton compte et qui regardent les photos, musclé et tout, comme ça et tout. Déjà, on ne donne pas l'âge, mais en plus, c'est vrai que la métamorphose par rapport aux photos sur le post que tu veux, elle est impressionnante, hein, pour revenir dessus. Je ne sais pas, t'as tenu des registres de ton poids, de tes pourcentages de masse grasse, etc., tout comme ça, pour voir comment ça a évolué?
Pas vraiment, parce que quand j'étais petit, tu vois, on faisait pas la masse graisse, tout ça, je m'en rappelle pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été assez rond vraiment avant la puberté, ça c'est clair. Jusqu'à la puberté où je me suis affiné quand même, parce que je pense que j'ai grandi un peu d'un seul coup. J'étais pas très grand, bon, je suis 1m75 aujourd'hui, je suis pas dans les grands grands. Hein. Et c'est vrai que au niveau du poids, après jeune adulte, j'avais quand même pas mal repris. Bah, tu sais, voilà, tu picoles un peu, tu fais la fête. J'ai fumé à l'époque.
En plus.
Ouais, ben voilà, tu vois tous les vices possibles. Et d'ailleurs, pendant que je faisais du fitness, je fumais. Hein. Quand je faisais du fitness, pendant la pause, j'allais fumer. Une autre époque.
Ah, tu devais avoir la moitié de la salle qui faisait pareil. Attends.
Ben, non, mais c'était dingue. On était plein à fumer, de l'aérobic et tout ça. Non, mais c'était dingue, en fait. On était les poumons les plus ouverts du monde. Et là, paf, une cigarette. Allez, hop. Et puis la bière après. Enfin, bon, passons. Je passe le mythe. Mais c'est bien comme ça casse aussi l'image. Donc, te dire que j'ai... Non, j'ai pas vraiment... Après, j'ai plutôt pris du poids, en définitive, parce qu'avec la muscu, je me suis transformé. J'ai quand même pris du muscle. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé mon poids de forme, mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse évolution musculaire. Mais ça, c'est clair. Et ça, je dirais, je le disais tout à l'heure, l'évolution musculaire, elle s'est plus fait là. Je vais avoir 47. Elle s'est fait entre 40, tu vois, entre 39. Ouais, non, 40. 40 et 47 maintenant, tu vois, en 5-6 ans. Là, c'est vraiment la grosse transformation.
Mais j'ai même l'impression que c'est dans les deux dernières années que tu as un truc qui. Ou alors, c'est que tu fais les photos différemment.
Je fais du Photoshop. Non, je ne sais même pas l'utiliser. Je ne l'ai pas. Je ne sais même plus utiliser celui-là.
Non, ou alors tu mets plus en avant. Je ne sais pas. Parce que tu vois, il y a une photo, par exemple, celle de l'Iron Man, je ne sais pas lequel, après Andorre. Tu fais une photo torse-poil avec ta médaille.
Ouais, ça fait toujours ça.
Ouais, maintenant, tu fais toujours ça. Mais bon... Non, mais c'est aussi ça, la revanche. Je veux dire, attends, moi aussi, si j'ai des abdos qui apparaissent comme ça...
Un crâneur.
Hein, et un peu le crâneur et tout, je le ferai aussi, je te le garantis. Et en plus, je comprends le sentiment, tu vois, même on pourrait dire revanche, etc., tous ces trucs-là. Mais moi, j'avais le sentiment que quand je t'ai eu il y a 3 ans, enfin, t'étais pas comme ça, quoi. Que dans les 2 dernières années, t'as vraiment changé, quoi.
Je pense que, bah, pour le coup, alors là, encore une fois, c'est la course à pied de façon assez intense, donc le séchage, tu vois, le cardio... et le yoga. Parce qu'en fait, le yoga, ça a vraiment commencé fortement. J'ai fait ma formation de prof en 2019. Hein.
D'accord. Donc,
avant, je faisais un peu d'étirements, des choses, mais ce n'était pas vraiment du yoga. J'ai vraiment commencé ma vraie pratique yogique en 2019, tu vois, fin, mi-d'année. J'ai passé mon diplôme en 2020, tu vois, 2019, ouais, 2020. Et c'est cette pratique yoga, les abdos, d'ailleurs, c'est ce que je dis à tout le monde, j'ai jamais eu autant d'abdos qu'en faisant du yoga. Franchement, ce gainage du centre du corps, c'est le yoga, c'est mes équilibres sur les mains, c'est toutes les planches que je peux faire. En yoga, j'arrête pas de faire des planches et des demi-planches. Les chiens tête en haut, chiens tête en bas, tu gaines tout le temps le corps, tes abdos sont toujours contractés. Donc en définitive, c'est comme les pilates. C'est pour ça que souvent les pilates, ça donnait des très bons résultats. Les nanas faisaient ça pour réaffermir le centre du corps, parce que c'est hyper efficace. Donc oui, je pense qu'en 2 ans, on peut voir une différence sur les abdos. Moi-même, je la vois. Hein. Donc ouais.
Il faut le dire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le pilates, essayez le pilates un jour, vous allez voir, ça paraît rien comme ça sur certains trucs.
Ouais.
Moi, j'ai fait un jour une séance de pilates et j'étais en niveau difficulté 1, je crois. Il y avait un monsieur à côté de moi qui avait 70 ans, qui était au niveau difficulté maximum, et la prof, elle dit, regardez, ça fait 20 ans de pilates, regardez ce qui... Et j'ai regardé, et effectivement, c'est impressionnant. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai aucun doute là-dessus, mais moi, j'avais été vraiment impressionné par... même des trucs, son gainage, sa stabilité sur des choses, etc. Où moi, je regardais, où je me sentais en forme, mais je me suis ressenti à côté. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qu'il est capable de faire? Mais c'est vrai. Et elle m'a dit, oui, mais ça fait 20 ans qu'il fait ça. Pour ça, il faut toujours se souvenir aussi un peu de questionner un peu ce que les gens ont fait, par où ils passent, etc. Parce que ça pousse pas. Enfin, tes muscles, ils n'ont pas poussé en 3 jours. Hein, ça, c'est clair.
Non,
mais
non.
Ta souplesse non plus. Et il y a un truc, par contre, dont tu parles jamais, c'est l'alimentation. T'en parles jamais sur tes posts?
C'est vrai que j'en parle pas. Alors, dire que je suis hyper pro sur l'alimentation serait pas serait faux totalement, parce que je pense que je suis pas un super exemple en alimentation. Maintenant, je fais super attention pendant mes courses souvent, ou en tout cas avant mes courses. Mais je suis pas non plus le mec qui est intransigeant sur tout, tu vois. Je vais faire attention à l'alcool principalement avant les courses, ou à la semaine d'avant, je vais tout arrêter. Mais je suis pas. Souvent, je trouve que je mange trop sucré. Tu vois, j'ai tendance à aimer le sucre quand même globalement, plus que le gras d'ailleurs. Je pense que j'aime plus le sucre que le gras, effectivement. Donc c'est pour ça que j'en parle pas, parce que je suis pas quelqu'un de vraiment branché sur la nutrition. Il y a meilleur que moi et je prends plutôt des renseignements par les autres. Maintenant, j'ai un régime quand même. J'ai un régime. Non, j'ai pas un régime, mais je suis un peu. Je vais dire semi-végétarien, c'est-à-dire que je mange très peu de viande en définitive, pas beaucoup de poisson non plus. J'essaye de manger beaucoup de légumes, donc ça c'est clair. Je vais faire un peu écolo durable. J'ai un fournisseur à côté de chez moi qui fait du local de saison, donc en fait je mange que des trucs qu'on trouve dans la saison. Et j'essaie de manger beaucoup de légumes, ce que je mangeais pas avec mes parents justement à la campagne. On était très charcutaille, pommes de terre, pâtes, etc. J'ai un peu changé tout ça. Donc voilà. Après, j'ai pas une alimentation plus saine qu'un autre, tu vois. Je dirais pas que pour le coup je me contrains. Et en même temps, vu le sport que je fais, je m'en sers aussi. Tu vois, c'est aussi ma petite excuse pour dire bah je me permets des abus aussi, hein, parce que
Ouais, parce que tu t'entraînes combien d'heures par semaine là?
bah, au final, je cours. En général, je cours tous les 2 jours. C'est-à-dire, je cours pas tous les jours, mais les jours où je cours pas, je vais soit à la piscine, soit à la muscu. J'ai le yoga. Le soir, je donne des cours. Le dimanche, je donne des cours. Et tous les jours, je vais au vélo, au bureau. Je fais 10 km de vélo par jour avec des côtes et tout ça. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours 50 km. Bah, au moins, 50 par semaine. Donc, en fait, je fais du sport tous les jours, quoi. Donc, je sais pas combien ça fait, mais plusieurs heures par jour,
Voilà. Et
au
donc en ce moment, par contre, sur l'alimentation, il y a un truc dont tu parles, et ça me fait rire, c'est tes tests d'alimentation pour le marathon des sables, les trucs lyophilisés, les petits menus,
final.
quel menu je
Ouais.
vais faire, etc. Ça fait un bout de temps que ça te travaille, cette histoire-là, quand même, hein.
Bah ouais. Alors là, je l'ai moins fait, parce que maintenant, j'en ai essayé plusieurs. Donc, je suis pas très difficile non plus, hein. Je suis pas très compliqué. Je réagis plutôt bien à tous les trucs. Les poudres, les machins, les trucs. J'ai pas besoin de trop tester. Je prends et en général, ça passe. J'ai pas un estomac trop difficile. Et c'est vrai que la bouffe lyophilisée, là, j'ai tout reçu. Hein. Ça y est, j'ai tout mon paquet avec tous les jours et tout ça. Bon, on est tous un peu inquiets, hein, sur ce sujet-là. C'est lourd quand même. Même si c'est déshydraté. Je sais pas si ça va rentrer dans mon sac. J'ai pas encore essayé. J'ai une des copines qui part avec moi qui m'a dit, qui est venue la dernière fois et qui a vu tout l'ensemble du truc et dit, mais oh, t'as tout ça et ça va jamais rentrer dans ton sac. Elle dit, mais t'as essayé? Elle dit, moi, j'aurais fait tout de suite, j'aurais essayé d'entrer. Elle n'était pas paniquée, toi. Donc, j'ai pas essayé. Effectivement, quand je vois le carton et je vois le sac, je me dis, c'est bizarre, je sais pas comment ça peut rentrer dedans. Enfin, on verra. Je pense qu'on va y arriver. Donc, ouais, en fait, j'ai commandé sur un site et j'ai essayé plein de marques, j'ai essayé plein de plats. Et après, j'ai changé un peu leur pack. Ils m'ont fait un pack 7 jours pour le dessert, donc spécifique chaleur forte, etc., avec les boissons, les bars. Tout ce qui va, quoi, et tous les trucs énergétiques. Dedans, il y a plein de marques françaises, il y a des marques autres, il y a des marques qu'on connaît tous. Et donc, j'ai tout, j'ai mes petits déjeuners, ma course, mon après-course et mon dîner tous les jours, en fait.
Ouais.
Voilà. Et après, il faut que je complète avec, je sais pas, du café lyophilisé et trucs comme ça, parce que je vais quand même avoir besoin de boire du café. Du thé, peut-être, je sais pas, faut que je, voilà. Ouais, c'est un vrai, mais c'est un peu l'inconnu quand même, hein, parce que là, pour le coup, en plus, tu vois, c'est un peu comme si je faisais effectivement ce 80 km. J'ai beaucoup pensé pendant le 80 km au marathon de Sable, hein, et à me dire, 40 degrés, 35, 40 degrés, tous les jours, dormir sous un bivouac avec des tentes, voilà, sur des tapis par terre, dans un sac de couchage, manger du lyophilisé tous les jours, tous les repas. Ok, on va voir ce que ça va donner, je sais pas. Et après, il y a le mental, encore une fois, hein, qui est là, heureusement.
C'est l'aventure.
Le physique est là, je pense. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, quoi. Mais donc, voilà. Donc, lyophilisé, ouais, sur cet aspect nutritif, Je suis inquiet et pas inquiet, je dirais. C'était bon, hein, ce que j'ai mangé. Donc, ma truffade lyophilisée, j'ai trouvé plutôt pas mal. Hein.
Non, mais t'as osé. Et tu l'as amené en Auvergne quand t'es venu à Saint-Flour, t'as mangé la truffade lyophilisée ou pas? Parce que.
Non. Non, par contre, j'en ai mangé une à Paris et j'ai trouvé que c'était plutôt un plat facile à réhydrater, plutôt bon.
Ouais.
Franchement, alors, ce n'est pas la truffade auvergnate, je le dis tout de suite. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt une sorte de purée voilà, au fromage, quoi. Mais c'est bon.
Ouais.
Franchement, ils ont réussi à reconstituer les trucs. C'est très salé. Et tu sens que, voilà, faut pas manger ça tout le temps. Parce que tu mangerais ça le midi, c'est pas bon du tout, à mon avis. C'est vraiment des plats de sport, en fait. C'est des plats qu'il faut manger en survie, tu vois. Je veux dire, en mode sportif, pas si tu fais rien. D'ailleurs, j'en ai mangé un une fois au bureau. J'avais pas fait de sport le matin, l'après-midi, j'étais lesté. J'ai eu l'impression que c'était un peu too much, tu vois. C'était trop important.
Mais bon, et ils sont faits pour ça aussi, hein, le sel, parce que tu vas perdre des sels minéraux
C'est ça?
tout le
Ouais.
repas, tu as besoin de ta dose de calories. Il faut rappeler que sur Marathon des Sables, on vous demande des calories
Ouais.
minimum, hein, donc
Ouais.
à avoir.
C'est
Certains
ça.
jouent avec ça pour savoir
Ouais.
comment gérer ça, mais que d'ailleurs, les pros étaient un peu critiqués sur cette histoire-là de partir avec peu de calories et piquer un peu les paquetages des autres. Mais ça fait partie des contraintes, donc c'est aussi ça, quoi.
14 000, ouais, 14 000 calories, bah, c'est des kilocalories, mais 14 000 pour la semaine, bah, pour les 6 jours, et donc c'est 2 000 minimum par jour. Moi, je suis à 2 700, alors, tu vois.
Ah, t'as pris un peu de marge.
Ouais, mais moi, je suis un peu comme ma coéquipière, je deviens insupportable si je mange pas, donc il faut mieux que je mange.
Ouais, sinon
Et pour les autres.
l'attente, ça devient l'enfer, quoi. C'est.
Ouais, ça va être pour les autres, ils vont avoir l'impression que j'ai arrêté de fumer pour le coup. Donc non, voilà, c'est ça. Donc non, faut bien me nourrir, sinon je ronfle.
Et alors, le truc, c'est qu'après, je vois que tu vas faire l'ultramarin derrière.
Ouais, exactement. Non, mais je suis un peu 2023, l'année de l'ultra.
Punaise! Mais attends, le marathon des sables, c'est quand?
C'est le 21 avril, jusqu'au 1er mai.
Et l'ultramarin?
L'ultramarin, si je ne me trompe pas, c'est le dernier week-end. C'est à cheval sur juin et juillet.
Ah, mais ça va, t'as de la marge.
C'est pour ça, c'est large.
Et c'est
Donc,
quand que tu places l'Ironman alors dans l'histoire?
l'Ironman, il est fin août à Vichy.
Donc tu viens fin août à Vichy pour l'Ironman après avoir fait le marathon des sables et l'ultramarin?
Ça.
Bah écoute,
Tout ça,
alors
c'est
là.
le même effort, c'est de l'ultra-endurance.
Ouais, alors tu sais quoi, à Vichy, j'espère pouvoir venir te voir ce jour-là à Vichy. Parce que c'est chouette à voir pour ceux qui connaissent pas et tout. L'Ironman, c'est chouette. Je blaguais tout à l'heure en disant qu'une année, il y a eu des problèmes d'eau. Enfin, il y a eu 2 années où il y a des problèmes d'eau entre les problèmes de vannes, de pollution, de pas d'eau, trop d'eau,
L'année
etc.
dernière, oui.
Donc, il faut vous souhaiter quand même que vous ayez les bonnes conditions. Et je me rappelle que quand tu as fait le half, tu as eu un coup de. Il faisait chaud ce jour-là. Hein.
Ouais, alors moi j'en ai fait deux des Alphes à Vichy. J'ai fait celui de l'année dernière et celui de l'année d'avant. Ça fait déjà deux. Hein. Je suis un abonné de Vichy, maintenant je commence à connaître le parcours.
Ah, puis
Le
le train,
premier.
c'est direct.
C'est ça, mais c'est vachement pratique. Le premier, j'ai eu la natation. Le deuxième, j'ai pas eu la natation, puisque c'était pollué l'année dernière. La première année, il a fait vraiment très très chaud. Ouais, il faisait 35 degrés à Vichy, c'était l'enfer pour la course à pied. Par contre, l'année dernière, on a eu de la pluie sur le vélo. C'était un peu à montagne machin, là. Je me rappelle plus du nom.
Maillot de montagne, je sais pas
Maillet de
comment.
montagne.
Ouais.
C'est très joli et il pleuvait. Quand je suis passé dans la forêt après, derrière, là, la grande partie de forêt, il a plu, mais alors il tombait des trombes de flotte. Moi, j'adore cette descente, j'étais ravi, je me dirais, ah, j'adore ce moment, ça descend et tout, c'est génial à vélo. Il pleuvait, c'était horrible, ça t'en prenait plein la figure, on voyait rien. Il faisait noir et la route était glissante. C'était pas le meilleur moment, définitif. Bon, on était parti sur le vélo, j'avais pas eu la natation. J'étais un peu moins fatigué, quoique bon, la natation, c'est pas ce qui est en définitive le plus fatigant sur l'Ironman. Parce que même si dans le half, tu as 1900 mètres et dans le full, tu as 3600, 9, 9, 18, 3800.
800.
3800, c'est long, mais en définitive, la natation, c'est quand même c'est une petite partie de l'Ironman en définitive par rapport à toutes les heures que tu vas passer sur le reste.
Ouais.
Parce que la natation, tu vas peut-être mettre 1 h 15, 1 h 20, je ne sais pas. Alors, ça, les pros, ils vont aller beaucoup plus vite. Par contre, sur le vélo, 180 km, tu vas mettre un peu plus de temps, quoi, tu vois. Ça va être un peu long. Et puis le marathon, il risque d'être long aussi parce que tu es bien fatigué, bien capoute. Donc le marathon, tu vas pas le faire en 3 heures. Bah, moi, en tout cas, je vais pas le faire dans mes 3h20 du marathon de Paris, tu vois.
Ah oui, parce que tu fais le marathon en 3h20, toi?
L'ai fait en 3h27, je crois.
Oh ouais. Bah écoute.
Ouais, alors, bon, et sans plan d'entraînement, alors comme on dit, encore une fois, ça va pas faire très humble, sans plan d'entraînement spécifique, c'est-à-dire sans faire le fractionné qu'il faut, sans faire de la piste qu'il faut, peut-être que si je me dévouais à un plan d'entraînement marathon, je pense que je pourrais vraiment faire mieux, mais il faudrait vraiment que je fasse que ça. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est ce que je dis à chaque fois, tu vois, quand tu prends mon année, là, il y a le marathon des sables, il y a l'ultramarin, il y a un Ironman, et il y avait le 80 km de l'éco-trail. Alors c'est un peu tout pareil, c'est des longues distances, mais c'est quand même, il n'y a pas de plan d'entraînement pour s'entraîner à tout ça, parce que si je prends un plan triathlon, bah c'est pas ça. Si je prends un plan pour le marathon des sables, bah c'est plutôt de la rando-course, et puis de la charge sur le dos, et puis du cumul de fatigue. Donc en définitive, comme me disait un entraîneur triathlète il n'y a pas longtemps, je discutais avec un copain qui est entraîneur, il dit, oh mais il dit en même temps, hein, de toute façon ce que tu fais c'est de l'entraînement pour Vichy, hein. C'est de la longue distance, c'est pareil. Donc, ça me faisait rire et il me disait, bon, il faut juste faire un peu de kilomètres de vélo, puis aller à la piscine. Bon, il fait après, si tu as la tête, l'endurance et le corps, bah, le truc, tu l'emmèneras au bout. Hein, si c'est pas pour performer, voilà. Le but, c'est pas, je vais pas le faire pour être, pour faire un temps, tu vois, l'Ironman. Le but, c'est de le finir.
Et tu vois une revanche dans ton année là de bon, on va boucler là-dessus, mais tu sais, par rapport à ce qu'on disait sur ces jeunes années et tout là.
Bah oui, j'y vois une revanche. Alors surtout sur une année comme cette année là, ce que je me lance comme défi en 2023, j'aurais jamais, j'y pensais en courant sur le 80, j'aurais jamais imaginé faire des trucs pareils. Là, je suis inscrit. Bon, déjà j'ai rebouclé ce 80. Bon, maintenant c'est la quatrième fois. Voilà. Je suis inscrit sur le Marathon des Sables, qui est quand même une course mythique globalement, qui est quand même ultra connue et considéré comme difficile, même si les barrières sont larges et qu'on peut marcher, etc. C'est quand même des conditions extrêmes. L'ultramarin, c'était un temple et j'avais envie de le faire. Après avoir fait les 100 km de Millau, je me suis dit, maintenant, l'ultramarin, il faut y aller, quoi. C'est plat en plus, mais c'est piégeant parce que c'est très roulant, donc tu as envie de courir, mais 175, bah, courir 175, c'est un peu. Voilà, puis ça va durer longtemps. Et puis c'est Ironman, donc mixé avec du triathlon dans la séquence la plus importante du triathlon, c'est-à-dire l'enchaînement le plus long. Enfin, il y en a des pires, hein, des triathlons encore, mais en tout cas aller sur le format XL, tu vois. Ouais, c'est une vraie revanche, ouais, c'est une vraie revanche sur, alors pas sur mon corps parce que je suis heureux que mon corps m'accompagne dans tout ça et m'autorise à le faire. Un jour il m'accompagnera plus, ben je le ferai plus. Mais je pense que je l'écoute assez pour le coup. Mais c'est une revanche par rapport au gosse que j'étais à l'époque qui aurait jamais imaginé faire ça. Ouais, ça c'est clair. Donc je pense que on m'aurait dit ça, j'aurais pas pu y croire. Hein. Et tout s'est fait progressivement. Mais voilà. Mais encore une fois, je le dis toujours, je le fais. J'ai vraiment envie de le faire sans me prendre la tête. Et des fois, il y a des gens qui me disent, ah mais pour faire ça, il faut s'entraîner. Pour ça, il faut faire ci. Pour ça, il faut faire ça. Eh ben, j'ai envie de te dire, je le fais comme j'ai envie de le faire. On verra si ça passe ou pas. Et puis si je suis pas prêt, eh ben je le fais pas, ou je change mon programme, ou je fais autrement. Mais aujourd'hui, je m'écoute, je prépare mon mental, je prépare mon physique, et pour l'instant, bah, ça monte progressivement et ça marche, tu vois. Donc j'ai envie de dire, chacun trouve son chemin dans son entraînement. Chacun. Moi, c'est le sport sans prise de tête. J'ai envie que ça soit pas une contrainte. Que ce soit un vrai plaisir. Donc, il faut que mes plans d'entraînement soient un plaisir aussi. Tu vois?
C'est clair, mais je te comprends parce que moi, c'est ce que j'appelle la méthode intuitive en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as l'intuition qu'il faut que tu fasses un truc qui te plaît, que tu t'amuses, etc. Que ce soit du. Il y a une partie jeu aussi dans ces fois. Tu partages dans tes stories, tu dis bon, allez hop, je vais faire 1 heure là-dessus, j'avais prévu de faire ça, je fais différemment.
C'est
Tu as
ça.
toute une partie jeu et qui est intéressante. Et puis, bon, tes équilibres à droite, à gauche, tu t'amuses bien, quoi. C'est vraiment ce qui se transparaît en fait, tu vois. Pour finir là-dessus, c'est vraiment ce qui transparaît, c'est ce côté jeu que tu as mis dedans. De dire même tes photos là sur quand tu fais tes équilibres etc. il y a vraiment une partie jeu dans tout ce truc là qui fait du bien d'ailleurs parce que ça change de ceux qui font la gueule qui font la tête etc. qui se prennent la tête pour 1 demi-seconde sur leur record. Toi c'est du
C'est
jeu quoi.
ça. Ouais, c'est le côté ludique, et ça, c'est vraiment. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut hein, sur ses postes. J'avais réagi d'ailleurs sur le semi à ça parce que ça m'avait un peu foulé certains postes avec des gens qui disent qu'ils sont dans l'échec, qu'ils ont tout foiré, que c'est un entraînement de merde, que c'est une course de merde parce que ils ont fait 10 minutes de plus et qu'ils ont un RP genre à tout défoncer, quoi. Déjà, ils ont un temps, personne n'est capable de, bah, 1% de la population fait ce temps. Après, je comprends, c'est des sportifs, ils veulent absolument remporter un truc machin. Par contre, je pense qu'il faut pas parler comme ça, tu vois, parce que c'est faire du mal à son propre corps, je trouve. C'est ne pas se respecter de dire un truc pareil. Parce que quand tu es capable de dire ça et que ton corps a été capable de t'emmener à cette vitesse-là, et que tu dis c'est nul, c'est de la merde ce que j'ai fait parce que j'ai loupé de 1 minute, bah non, tu devrais plutôt être fier de ce que ton corps t'a permis de faire et te poser la question de pourquoi t'as pas réussi à avoir cette minute de plus. Parce que si tu t'as pas un peu de prise de recul sur toi, je pense que tu l'atteindras jamais cette minute qui te manque. Voilà. C'est un vrai travail, il y a un travail avec soi aussi, avec son corps. Et je pense que beaucoup de gens l'oublient, c'est-à-dire qu'ils sont dans la performance, mais que la performance. Et bah, souvent, ils se blessent. Et puis souvent, bah, c'est des gens qui, d'ailleurs, souvent arrêtent le sport même, c'est pas la généralité. Donc, c'est un peu dommage, je trouve, parce que le sport, pour moi, bah, à part peut-être que les sportifs de haut niveau diraient pas la même chose, mais il faut que ça reste, mais même pour eux d'ailleurs, faut que ça reste un plaisir quand même, parce que c'est quand même le truc qui les fait vivre. Même un sportif de haut niveau. Donc, je pense que c'est le non prix la non prise de tête et le plaisir avant tout, quoi.
Eh bien écoute, ça va être la conclusion, parce que je trouve que c'est une belle conclusion. J'avais quand même une dernière question, mais je pense que tu peux pas y répondre, parce que quand tu auras 50 ans, je sais même pas comment tu vas fêter tes 50 ans sportivement, les défis que tu pourrais te lancer. Je me dis, tu as peut-être une idée, mais tu sais, moi aussi j'ai réfléchi de me dire comment j'ai fêté mes 50 ans, tu vois, me dire ouais, un Ironman, Diagonale des Fous, des trucs comme ça, t'as une idée toi?
Bah écoute, non, tu vois, c'est ça qui est dingue, je me suis pas posé la question, et surtout j'aurais déjà, si tout fonctionne, j'aurais déjà relevé un certain
Bah
nombre
oui.
de challenges que j'aurais pu caser pour un 50 ans, effectivement.
Bah
Je sais pas, non, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Un truc dingue.
ouais. Écoute, t'as 3 ans pour réfléchir. En tout cas, écoute, merci beaucoup pour le temps passé. Je remettrai bien sûr les liens vers les posts dont on a parlé, notamment. Bah, il est épinglé sur ton compte, hein, en plus. Donc, on trouve le premier coup. Ton compte Instagram, c'est Greg Fit Trail, hein, même si le nom a changé un petit peu, mais c'est, je mettrai le raccourci. On te trouve ailleurs. Tu fais des vidéos, toi, ou des choses comme ça?
Ouais, j'ai une chaîne YouTube, Greg Fit Trail aussi d'ailleurs, qui est pas, alors j'avoue, qui est pas très à jour. J'ai beaucoup de pratiques de yoga dessus. J'avais surtout créé pendant le confinement quand je donnais des cours en ligne. Je vais en rajouter quelques-unes là prochainement, des petites routines yoga pour le matin et pour le soir. Mais c'est vrai que ouais, j'ai une chaîne YouTube que j'utilise pas beaucoup, mais il y a quand même à peu près peut-être 70 heures de cours dessus.
Ah, quand
Donc,
même.
ouais, il y a beaucoup de cours de yoga depuis le début de ma formation jusqu'à maintenant. Alors, ça a évolué, bien sûr. Toujours pareil, hein, ce que tu enregistres, mais je les ai laissés à dispo. Il y a des gens qui les utilisent. Donc, voilà. Et puis, j'ai une page Facebook, Greg Fit Trail aussi.
Eh bien, écoute, je mettrai tous les liens en note de l'épisode. Je te remercie beaucoup, en tout cas, pour le temps passé. Je trouve que c'est chouette, tu vois, de voir ce parcours, de voir ce changement et tout. J'ai trouvé ton post qui était vraiment intéressant. Il est fort. Et je mettrai le lien pour que les gens puissent le lire. Pour voir et puis voir les photos, parce que tu mets des photos d'enfance, d'adultes, d'ados, etc. Mais de voir ce changement et puis bah de voir aussi comment tu envisages le sport d'une manière qui est totalement différente, je trouve, de plein de gens. Mais tu vois, sur ce qu'on disait là, sur la notion de performance, de jeu, de plaisir et tout, mais qui montre aussi que ça marche. Et hier, tu sais, j'ai eu une remarque de quelqu'un. J'ai dit, moi, tu sais, le semi-marathon de Vichy, je me suis inscrit, c'était juste pour participer au marathon pour tous, avoir une chance d'avoir gagné le dossard. Et je m'étais mis un truc un peu à la con, je me dis, est-ce que je peux battre mon meilleur temps que j'ai fait il y a 4 ans en m'entraînant spécifiquement pour courir plus vite le marathon? Et je me suis dit, bah oui, mais t'as pas d'entraînement. Bah oui, mais bon, pourquoi pas? Et ben, écoute, j'ai mis 2 minutes à mon record de l'époque, alors que normalement, je suis censé être plus lent, moins vite, etc. Tu vois, et comme quoi, des fois, il y a des trucs. Et quelqu'un m'a fait la remarque en me disant, bah, comme quoi la méthode intuitive, elle marche pas si mal que ça. Et il m'a dit, ça me rassure. Il y a une personne qui m'a mis un commentaire qui m'a dit, écoute, Bertrand, ça me rassure. Parce que moi, je suis pas fan des séances de VMA, je suis pas fan des plans, je suis pas des trucs.
Voilà.
Et ça montre qu'on peut y arriver quand même. Eh ben, écoute, c'est aussi ce que tu as partagé et ça me fait vraiment plaisir.
Bah écoute, merci beaucoup Bertrand pour cette interview super sympa.
Eh ben, écoute, sur ce, je vais te laisser aller parce que toi, t'as du yoga. T'as un cours de yoga dans
C'est
pas longtemps.
ça, oui.
Moi, je vais aller rouler un petit peu en vélo, en mode intuitif, tu sais, avec un programme super défini de savoir combien de temps je vais rouler, si je tourne à droite, à gauche, et ensuite, je verrai ce qui va se passer. Je te remercie beaucoup. Bon, bah, Bien sûr, on ne pourra pas suivre ton marathon des sables en direct, mais je pense qu'on aura le récit au retour, hein, bien entendu.
Ouais, et toutes les infos sur le compte Instagram, on pourra le suivre à distance.
Voilà, on suivra ça en distance. Je te souhaite, bah écoute, un bel enchaînement, hein, parce que quand même, ça va en faire des kilomètres, ça va en faire de l'effort. Profite bien du désert. Bon, tu ne vas pas t'entraîner à nager dans le désert, mais écoute.
Non.
Tu sais que j'ai eu un invité il y a pas longtemps qui a fait un truc. C'est l'équivalent du marathon des sables en natation. Si jamais tu cherches un truc pour tes 50 ans, Morocco Swim Trail. Juste Swim, non, oui, un truc comme ça.
Le long de la côte marocaine.
Voilà, exactement. Tu vois, tu peux regarder dans les anciens épisodes. On en a parlé. Tu peux avoir ce truc-là, tu vois, toi qui aimes bien nager, etc. Tu auras des choses comme ça si tu veux. Mais là, on sait jamais, hein. Je te disais juste au cas où tu manques d'idées. En attendant, je mets très bien sûr tous les liens dans les deux épisodes. Je te souhaite un bel enchaînement. J'essaierai de venir te voir à Vichy, tiens, tu vois, fin août, si je suis dans le coin, j'essaierai de venir voir ça à Vichy. Et puis nous, écoutez, on va se retrouver la semaine prochaine avec un nouvel épisode, nouvel invité. Qui sait, j'en sais rien. Je sais pas qui est l'invité parce que j'ai des mélanges, etc. J'en ai plein en stock. Mais c'est sûr que ça va bouger et on va garder le sourire, on va bouger, on va voir plein de trucs. Et même si des fois j'ai des sujets un peu moins souriants, tu sais, toujours on en sort toujours avec une note positive en disant qu'on peut bouger et que ça nous fait du bien. Merci Greg.
Salut, à bientôt.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.